Je suis tellement heureux d'être ici ce matin et d'entendre cette exhortation comme je venais sur l'estrade. Je regrettais être en retard, mais il y avait des malades à l'arrière et des voitures, une sorte d'ambulance, et j'ai dû m'occuper de ceux qui ne pouvaient pas entrer, vous voyez, avant d'entrer moi-même. Maintenant, je me demande si la sœur qui a le petit enfant, si elle ne peut pas revenir cet après-midi, je veux prêcher aussi ce soir si le Seigneur le veut. Si elle ne peut pas revenir pour la présentation, alors, eh bien, que je sois resté debout si longtemps cette fois-ci, eh bien, dites-lui qu'elle peut amener le bébé maintenant. Mais si elle ne peut revenir ce soir, si elle peut revenir ce soir, sera un petit peu mieux pour nous. Mais faisons selon ses possibilités, peu importe. Eh bien, si elle ne peut pas revenir, nous amènerons ce petit enfant maintenant pour la présentation. Maintenant, tout ce pendant que je suis en train de parler, si elle veut avancer maintenant, ce serait le bon moment. Maintenant, ce soir, il y aura quelque chose de très spécial. Je veux parler sur un sujet intitulé Monsieur, est-ce le temps? Ce sera un message prophétique. Donc, si le Seigneur le veut, je vais parler ce soir sur ce sujet. Est-ce l'heure, monsieur? Ou monsieur, c'est le temps, plutôt? Et alors, je veux saisir l'occasion en présence de l'Église. Il y a eu bien des choses qui sont arrivées dans ces tout petits temps qui convergent vers un grand quelque chose que je ne comprends pas. Mais nous sommes toujours, les voies de Dieu dépassent toute compréhension humaine. Nous devons donc marcher par la foi. Si quelqu'un pouvait expliquer Dieu, alors ce ne serait plus nécessaire d'avoir la foi. Parce que vous saurez, alors que nous sommes marchés par la foi. Et maintenant, j'ai pensé et j'essayais d'avoir simplement un service habituel d'évangélisation parce que j'ai ensuite changé d'idée parce que je suis venu ici et que je vis tellement de personnes debout si longtemps. Et alors, ce soir, peut-être qu'il y aura beaucoup moins de personnes ici. Alors, je pourrais alors aller de l'avant avec ceci, avec ce que je veux dire. Il y a une chose que je me réannonce alors que beaucoup d'entre vous sont rassemblés. Quelque chose que je n'ai pas annoncé de ces dernières semaines, c'est que vos prières ont été exaucées concernant cette affaire d'impôt que j'ai eu avec le gouvernement. C'est réglé. Nous sommes donc entièrement terminés. Comme beaucoup d'entre vous le comprenez, ce qu'ils avaient contre moi, c'était des chèques qui avaient été destinés à moi. Et pourtant, ils essayaient de dire qu'ils étaient à moi et qu'ils voulaient me faire payer 350 000 $ comme si ces choses étaient. Et finalement, ils sont arrivés au point, je vous donnerai simplement un petit aperçu de ce qui est arrivé. Ils avaient passé près de 5 ans, je crois, sur cette, en revenant plusieurs fois, regardant le caractère et tout le reste. Je suis reconnaissant qu'ils n'ont pas pu trouver quelque chose contre moi, ils n'ont donc pas pu m'accuser. Il n'y a aucune objection, si ce n'est, ont-ils dit, mon ignorance, je pense, et sachant que c'est pas grand-chose de cela. On m'a porté l'échec et je l'ai signé. Mais alors, aussi longtemps que je mettais mon signature, mettais mon nom, et c'était. Alors, on m'a dit que c'était très bien, mais comme cela, si vous mettez votre nom, ça vous appartient. Mais dès que vous avez mis votre nom, cela, c'était à vous. Ainsi, s'ils avaient été mis, comme. Mais ils ont écrit, mais ils ont simplement écrit William Branham. Et ils étaient donc, et alors, finalement, par prière, alors, il n'y a pas longtemps, vous savez, j'ai eu la vision qu'un homme de grande stature, j'ai eu la foncé, noire, fumée, et suis couvert des cas comme un alligator s'avançait vers moi avec les doigts de fer. Je suis juste un petit couteau, j'avais juste un petit couteau, et c'était écrit, marqué sur lui, gouvernement des États-Unis. Je ne pouvais rien faire, j'étais impuissant. Alors le Seigneur entra en conseil et il fut vaincu. Et vous vous rappelez alors que je vous ai parlé il y a longtemps. Ils ont offert un compromis. L'autre jour, mon avocat, M. Morrison de New Albany, ici, Eisen Miller, a interposé s'occupant de ça. Les affaires d'impôt, mon téléphone pour me dire de venir le trouver. Je suis donc allé, il y avait Frère Robertson et mon épouse, moi, et nous sommes allés, ils nous ont dit que le gouvernement était prêt à faire un compromis. et j'ai dit, si je dois quelque chose à quelqu'un, je le paierai. Et je ferai de mon mieux, mais cela, je ne le dois pas. J'ai dit donc, honnêtement, Dieu le sait. Et alors, pourquoi ne présente-t-il pas d'accusation contre moi si je suis capable, coupable? Cela fait 5 ans qu'ils essaient de faire cela, mais ils n'ont pas pu rien trouver pour le faire. J'ai donc, non, je refuse, je ne les payerai pas tant qu'ils n'ont pas, n'ont rien à prouver. Qu'ils n'ont prouvé pas que je dois. Alors, l'avocat m'a fait entendre et m'a parlé, dit, eh bien, on va passer cette affaire au tribunal, le gouvernement le fera. À ce moment-là, la seule chose qu'ils pouvaient faire, pouvaient trouver contre vous, c'était, et je ne sais pas du tout tenir une comptabilité. J'ai donc fait faire cela de manière que je pensais être honnête. Cela n'a jamais été déposé en banque à mon nom. Il n'y avait donc rien que je puisse faire à ce sujet. Il m'a dit, eh bien, ils sont prêts à faire un compromis pour 15 000 $ avec 10 000 $ d'amende. Et le frais d'avocat s'est élevé à 5 000 $, ce qui fait 40 000. Et alors, ils en veulent encore 5 de plus, je crois. Maintenant, je suis donc allé. J'ai dit, mais où au monde pourrais-je trouver 40 000 $? J'ai dit, vous connaissez mon compte en banque ici, il n'y a qu'environ 100 $. Ou peut-être moins. J'ai dit, mais où trouvais-je 40 et quelques mille dollars? J'ai dit, je n'ai rien à mettre en anticipation. Je n'ai pas tout cela. Il m'a dit, Monsieur Branham, voici ce qui se passe. Si nous faisons passer cette affaire en tribunal, sans aucun doute, nous pouvons gagner la partie. Il a dit, mais voici, nous pouvons gagner la partie parce que voici ce que je fais. Ils vont prétendre que tout cela vous appartient parce que vous essayez. Vous avez déposé votre nom. Vous avez posé votre nom. Ils vont prétendre que cela vous appartient, bien que cela ne soit pas déposé en votre nom. Et pas une seule fois n'ont pu trouver une centime que j'ai dépensé à mon nom. Dieu le sait. Il y a des hommes ici maintenant qui ont été avec moi pendant tout ce temps. Il n'y a pas eu un centime que j'ai utilisé, dépensé pour moi-même. Mais vous voyez cela, mais ainsi, peu importe. C'était censé être à moi premièrement et ensuite. C'était à l'église ou à la campagne. Ils ont une façon de faire cela, vous savez, toutes sortes de moyens de s'en sortir. J'ai alors dit, eh bien, je ne ferai pas cela. Et il a dit, eh bien, si nous gagnons le procès, c'est parce que je l'ai déclaré comme des dons personnels, voyez-vous. Je déclarerai cela auprès du gouvernement comme des dons personnels. Et a-t-il dit, alors quand j'aurai fait cela, tout ce que je dépense, l'immédiat sera considéré comme une aide. Et alors vous vous retrouverez là-dedans et ils vont tout retenir après 5 ans pour vérification. Voyez-vous, quand vous écrivez cela, ça passe la chambre de compensation, il scotopie le chèque. Et il m'a dit, une autre chose, M. Branham, s'il arrive ainsi que vous fassiez l'objet d'une telle enquête gouvernement comme cela, peu importe ce que vous ferez, aux yeux du public, vous êtes un escroc. Voyez-vous, c'est tout. Regardez ce petit prédicateur baptiste là-bas au Mississippi, cet homme. Une femme a dit qu'il était entré, c'est qu'il avait insulté. Et cet homme a amené la preuve venant de partout. Et qui n'était même pas en vue plusieurs jours avant et après cela, à tel point que les juges voulaient qu'il se retourne contre cette femme et les poursuivre pour diffamation. Et quand ils ont fait un sondage dans le pays, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dit, à 75% des Américains ont dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce pauvre homme, tout ce qu'il y a de plus innocent comme moi, ou n'importe qui, devra porter cela le reste de sa vie. Cela m'a fait de la peine pendant un certain temps de penser que j'avais consacré ma vie au royaume de Dieu pour essayer de faire en sorte que les gens payent leurs impôts et fassent tout ce qui est juste et faire que des escrocs deviennent des hommes honnêtes. Et ensuite être considéré moi-même comme un escroc, j'ai pensé, mais au monde, qu'ai-je fait? Et alors cela m'est venu à la pensée, j'ai regardé la Bible, chaque homme dans la Bible, sans être qu'il y ait une fonction spirituelle, si Satan ne pouvait pas les avoir avec la moralité ou quelque chose comme cela, le gouvernement qui les attrapait. Revenez, regardez n'importe quel cas, Moïse, Daniel, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Pierre, Paul, Jacques, les gars, tout le monde. C'est le gouvernement qui les a fait mourir parce que chaque gouvernement est le siège de Satan. Jésus l'a dit, la Bible l'a dit, chaque gouvernement est contrôlé par les diables. Il y a un gouvernement qui sera contrôlé par Christ, mais cela sera dans le millénium. Mais ces gouvernements actuels, peu importe combien nous pensons qu'ils songent bien, pourtant par derrière, ils sont dominés par Satan. Ce royaume, a-t-il dit, n'appartient ne m'appartient. Mais Jésus a dit, arrière de moi, Satan, tu adoreras le Seigneur et lui seul te servira. Alors je me suis découragé. Ma femme est en train de m'écouter. Je suis à la maison. J'ai dit, alors, non, je dois. Si je le dois, je le paierai. Je ne le dois pas et je ne veux donc pas le payer. Un point, c'est tout. Et puis, de toute manière, comment puis-je le payer? Je suis donc allé à la maison et j'ai dit, mais lave, vous êtes des enfants, prépare les habits et pars. J'ai dit, ils ne veulent même pas, tout est sans dessus. J'ai dit, qu'ai-je donc fait? Dis-le-moi. J'ai dit, moi, devoir 40 000 $? Tu ne réalises pas ce que cela veut dire pour moi. Et elle est venue comme une gentille petite épouse et j'ai dit, je pars. Elle m'a dit, tu penses que ça va arriver à quelque chose? As-tu déjà prié à ce sujet? J'ai pensé, bien, peut-être que je ferais mieux de prier à nouveau. Je suis donc retourné dans mon bureau et il me semble comme s'il me citait un passage. Vous voulez toujours observer l'écriture, ce que tu as fait? C'est ce que Dieu a fait. Un jour, on lui a demandé, vous savez, on connaissait de l'accusé par rapport au gouvernement. On lui a dit, c'est bien juste pour nous, Juifs, qui sommes libres de payer les tribus des impôts à César. Il a dit, avez-vous un denier? Il a dit, de qui est cette inscription? On lui a dit, il de César. Il a dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. J'ai pensé à cela, j'ai ouvert la Bible et j'ai lu cela. J'ai pensé, c'est vrai Seigneur, c'est juste, mais ceci n'appartient pas à César. C'était à toi. Ce n'était pas à César. Si cela avait été à moi et que je devais payer davantage d'impôts, eh bien, ça aurait été différent. Cela appartenait à César. Mais ceci est à toi et premièrement, cela n'a jamais appartenu à César. Et vous savez, là, toujours la réponse dans la parole. J'ai lu un petit peu plus loin et il a dit, « Dis donc, Simon, n'as-tu pas un hameçon dans ta poche? Tu as toujours sur toi un petit hameçon et une ficelle. Je viens de faire un dépôt ce matin dans une banque. Je répare les poissons là-bas à la rivière. » Il a dit, « J'ai fait un dépôt et le banquier va certainement redonner ce qu'il a. » Descends là-bas et jette la maison. Et quand tu arriveras à la banque, ouvre sa bouche et il te donnera la pièce. Ne les scandalisons pas. Ne les offensons pas. Vois-tu? Va payer cela, Simon. Ce sera pour moi et pour toi. J'ai pensé, Seigneur Dieu, je ne sais pas comment faire. Tu as des banques de poissons partout. Et nous sommes allés là-bas et j'ai pris les frères ici de l'église qui étaient derrière moi et j'ai rempli un avis. Je suis rentré à la maison, je voulais savoir comment j'avais écrit cette fois. Et s'ils avaient me faire des histoires, s'ils allaient me faire des histoires, encore j'ai dit, c'est pour dire que je suis libéré. Pour moi. Quiconque endossera celui-là sera certainement dans le bout. J'ai téléphoné plusieurs fois à la banque pour voir s'il est fait. Et finalement, Bob m'a dit, Billy, ils ont accepté. Je suis ensuite allé dans la pièce où se trouvait ma femme et je l'ai entouré de mes bras. J'ai dit, quel sentiment! Je me sens libre. Quel bien ça fait de se sentir libre. Eh bien, je peux rembourser cela maintenant. Ils ont vraiment rendu la chose la plus facile pour moi. Je peux rembourser à raison de 4 000 $ par année. Ça me prendra donc 10 ans pour le faire si Jésus ne revient pas. Alors, il viendra toutes les dettes seront de toutes les façons. Et ce soir, je continue avec quelque chose, peu importe ça fait ça. Mais vos prières sont ce qui m'a aidé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Peu importe où nous pouvons une fois nous retrouver, ne l'oublierai jamais. Ce soir, si le Seigneur le veut, je désire exposer certains faits que je connais, soyez donc sûr de venir. Rappelez-vous maintenant, monsieur, quelle heure est-il? Maintenant, nous allons, je crois qu'ils ont un horaire bien rempli pour le reste de la semaine. Lundi soir, il y aura des services. Ce soir, le lundi, il y a le service des longues veilles. Et alors, cela vous donne mardi le premier de l'an. Et si vous êtes excepté pour permettre de rentrer chez vous, nous avons quelques bons serviteurs ici pour se réunir. Un bon groupe de bons orateurs. Chacun parlera à tour de rôle jusqu'à minuit. Et parfois, ils prennent la communion. Je ne sais pas s'ils vont le faire cette fois-ci ou non. Alors qu'ils feront l'annonce, crieront, tireront du coup de feu, boiront, conduiront mal, nous prendrons la communion. Amen. nous commencerons la nouvelle année de la bonne manière avec la communion. Eh bien, vous êtes tous invités. J'espère que le Dieu du ciel vous donnera l'occasion de rester jusque-là si vous le pouvez. Maintenant, avant d'aborder la parole, j'aimerais aussi dire ceci, que je remercie certainement cette Église, ses membres, pour ce beau complet que vous m'avez acheté. Merci beaucoup, Sarah. Cela représente tellement pour moi. Toutes vos cartes et autres récits pendant la période de Noël, les cadeaux que vous avez envoyés à la famille, oh, ils me semblent innombrables. Et rien ne peut autant toucher mon cœur que de savoir que cela vient de vous. Et certains d'entre vous m'ont envoyé leurs cadeaux de Noël en argent. Et certains m'ont envoyé, comme ce certain frère qui m'a envoyé un portefeuille qu'il avait fait faire avec mon nom dessus et une petite broche dans laquelle vous regardez si tout la prière du Seigneur et des choses comme cela auxquelles nous attachons une grande valeur, mon épouse et moi et les enfants. C'est si peu, mais je dirais ceci que je pense la plus belle parole que nous puissions dire à quelqu'un, que Dieu vous bénisse. Il ne peut y avoir plus grand. Maintenant, ce qui concerne ces frères de l'Église ici, qui m'ont acheté ce fusil, j'ai porté mon complet, mais je ne pouvais pas porter le fusil à l'église, mais ils auraient vraiment eu quelque chose contre moi à ce moment, n'est-ce pas? Je vous remercie certainement, mes frères. J'allais lire les noms sur un petit, mais un des frères a passé me voir et a dit, non, on ne me remercie pas, frère. Ça enlèverait toute la joie. J'ai donc peut-être que les autres pensent aussi de la même façon. Je m'en rappellerai toujours et que le Seigneur vous bénisse grandement. Et vous savez ce que je fais pour me détendre. Je vais dans mon cabinet d'études, je m'assois là et je revis l'événement. Et quand je suis tenu, je ne peux plus aller. Alors je pense à quelques années tournées de. Alors, j'apprécie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous pouvons nous incliner la tête un instant, comme nous abordons la parole. Je suis certain qu'il y a des requêtes ici qui sont trop nombreuses. Je me demande donc si que. Alors que nos têtes sont inclinées, votre requête spéciale, si vous les gardez dans votre cœur, enlevez votre main et disant, « Oh Dieu, tu sais à quoi je pense maintenant. Seigneur Jésus, tu vois chaque main et tu sais ce qu'il y a là derrière, là au fond. Derrière cette main se trouve une requête. Et nous venons maintenant respectueusement au trône du Dieu vivant, cette grande perle blanche qui s'étend à travers l'espace du temps, là où Dieu Jéhovah est assis, le sang du Christ se trouve sur l'autel. Et nous parlons par-dessus le sang de celui qui a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom sera accordé. » Ce matin, oh Dieu, ne vois-tu pas entendre exaucer leurs requêtes? Je dépose ma requête avec les leurs aujourd'hui, afin que tu accordes cela. Et voici ici devant moi des mouchoirs, Seigneur, pour les malades affligés. Et on nous enseigne dans cette Bible, comprenez de ces mouchoirs et les anges qui avaient touché Saint Paul. On les plaçait sur les malades et les esprits impurs sortaient d'eux et les maladies les quittaient. Et Père, nous le savons depuis longtemps, nous le savons certainement que nous ne sommes pas Saint Paul. Mais après, nous sentons que ce n'était pas Saint Paul, c'était le Christ qui était en lui. Et tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours d'après l'Écriture. Maintenant, ces gens, Seigneur, croient que si nous demandons cela à Dieu, que nous prenons ces mouchoirs et les posons sur les malades, qu'ils seront guéris. Je te prie qu'il en soit ainsi, Seigneur, lorsque ces mouchoirs seront placés sur les malades. Et comme cela a été dit une fois, Israël s'est mis en route dans l'exercice de ses fonctions, se rendant vers la terre promise, et la main rouge lui coupait la route, alors qu'il remplissait son devoir. Mais Dieu regarda à travers cette colonne de feu, avec les yeux courroucés, et cette main rouge, elle fit reculer ses vagues et ses yeux. Et ses eaux. Israël passa à sec pour aller la terre promise. Maintenant, Père, Seigneur, aujourd'hui, regarde travers le sang de Jésus et tu vois cet acte de foi que nous accomplissons ici ce matin. Puisse Satan voir Père et s'en aller. Puisse chacun de ces pèlerins qui est présent et chacun de ceux sur qui ces mouchoirs seront posés, que la route soit ouverte et que la maladie s'en aille. Et puissent-ils continuer leur voyage vers la terre promise, étant conduits par le Saint-Esprit, la colonne de feu. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, bénis le service, les paroles, le contexte, la lecture, et puisse le Saint-Esprit prendre la parole ce matin, nous la répartir à chacun avec douceur. Alors que nous approchons des choses, de quelque chose de grand, de fondé que nous ne connaissons pas encore, nos cœurs sont étrangement remis, Seigneur. Et nous te prions maintenant, alors que nous nous rapprochons respectueusement de toi et de ta parole, d'interpréter cela et de nous en donner la signification, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ce soir, n'oubliez pas l'heure, quelle heure est-il? Et maintenant, ce matin, j'aimerais vous faire prendre dans les Écritures qui vous désirez, le passage à partir duquel nous voulons parler pendant quelques instants, se trouve dans les livres des Actes. Nous lirons peut-être à deux ou trois endroits, Actes 26, 15, premièrement, Actes chapitre 25 et verset 15 pour commencer. Et puis nous voulons lire Actes 23, 11, et vous pouvez ajouter à ceci, si vous le désirez, je n'aurai pas problème le temps de lire Philippe 1, 20. Tout cela est dans la même ligne, utilise les mêmes mots. Eh bien, dans le livre des Actes 26, 15, nous y lisons ceci. J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles que de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Également, dans Actes 23 et le verset 11, également, la nuit suivante, le Seigneur lui apparut à Paul et dit, « Prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Puisse Dieu ajouter cette bénédiction à la lecture de cette parole pleine de grâce que nous avons devant nous. J'ai entendu un homme parler ou enseigner il n'y a pas longtemps et il a utilisé le mot absolu. Et j'ai pensé que c'est un mot très bon et je l'ai entendu utiliser si souvent. Absolument. J'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi, illimité dans sa puissance. Principalement, un point de référence final. Ce point de référence final, c'est un amen, c'est tout, un absolu. C'est illimité en puissance. le mot absolu. C'est parfait en soi. Tout est là. C'est la règle de la question. J'ai pensé, c'est une chose glorieuse, c'est un mot merveilleux. Or, un mot, c'est une pensée exprimée. Premièrement, ça doit être une pensée, puis cela devient un mot. Parce que vous ne prononcez pas de mots sans y penser. Et quand nous parlons en langue, nous n'avons aucune pensée. C'est Dieu qui prenant les pensées, c'est la pensée de Dieu utilisant nos lèvres. Nous ne pensons pas ou nous ne savons pas ce que vous dites quand vous parlez. Vous ne savez pas ce que vous dites quand vous parlez en langue, si c'est une langue inspirée. Quand vous interprétez, vous ne savez pas. C'est Dieu. Et lorsque vous prophétisez, vous n'utilisez pas vos propres pensées. C'est Dieu. Parce que vous dites des choses que vous ne penseriez pas dire ordinairement, voyez-vous. Mais le mot absolu indique quelque chose de définitif. Et c'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final. Et derrière toute grande réalisation, il y a un absolu. Peu importe ce que c'est, il y a un absolu derrière cela. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. Et c'est l'ultime retour au point de départ en passant par ceci, cela et encore cela. Jusqu'à ce que vous arriviez à cet absolu ou l'amen, ou le point de référence finale. En d'autres termes, vous devez avoir quelque chose auquel vous devez vous rattacher. C'est le point d'attraction final de toute réalisation. Il se trouve quelque part, cela peut serpenter à travers bien des choses différentes jusqu'à ce que cela arrive à ce point d'attache. Mais là se trouve l'amen pour le tout. Il doit y avoir une telle chose. Vous ne pouvez pas continuer à travers la vie sans en avoir un. Et lorsque vous vous êtes marié, vous avez dû faire un retour en arrière dans votre pensée jusqu'à ce que vous atteigniez ce poteau d'attache. Et ça devrait être l'amour pour votre femme ou votre mari. Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas aussi jolie que la femme de John ou, eh bien, elle ne, ou ceci ou cela, mais il y a quelque chose en elle qui vous frappe. Vous dites, il se peut qu'elle ne soit pas aussi jolie que l'autre, il se peut qu'il ne soit pas aussi beau que l'autre, mais il doit y avoir un absolu là qui fait que cette personne est différente. Et c'est à cela que vous vous accrochez. Et si cela n'est pas là, vous feriez mieux de ne pas vous marier. S'il n'y a pas ce poteau d'attache, cet absolu. Nous pouvons penser à beaucoup qui avaient des absolus dans la Bible. Oh, nous pourrions accomplir cette Bible, parcourir cette Bible d'un bout à l'autre, être encore ici dans 2 semaines, sans même en avoir touché la surface, rien qu'en pensant aux absolus dans la Bible. Par exemple, laissez-moi juste en citer un ou deux brièvement. Regardez Job. Il avait un absolu. Tout est allé mal pour cet homme qui était un homme juste. Nous n'oserions pas dire qu'il n'était pas juste parce que Dieu a dit qu'il était. Il n'y avait sur la terre personne de semblable à Job. Il était parfait aux yeux de Dieu. Et il le savait parce qu'il avait un point de référence final. Il avait un absolu. Quand tout semble être contre lui, et que la maladie s'est déclarée, ses amis ont peut-être dit maintenant, « Ça y est, Job, cela prouve que tu es en train de pécher. Tu as tort. » Et alors les évêques sont venus. On les a appelés les consolateurs de Job. Et, ou plutôt que de les réconforter, ils n'ont rien vu d'autre que les péchés dans sa vie parce que Dieu avait traité avec lui de cette manière. Et ses enfants furent tués, ses biens furent brûlés. Tout est allé de travers et même sa vie était en danger. Il était assis sur la cendre, recouvert d'ulcères depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et même sa douce et charmante compagne, la mère de ses enfants, lui a dit, tu devrais maudire Dieu et mourir. Mais en face de tout cela, Job avait un absolu. Oh, en période de maladie, si nous pouvions seulement nous attacher à cet absolu. Job savait qu'il avait exécuté l'ordre de Jéhovah et qu'il avait foi en ce qu'il avait fait parce que Jéhovah l'avait signé. Si nous pouvions seulement faire cela, Jéhovah exigeait un holocauste pour son péché. Et Job, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants, avait offert un sacrifice. Et c'est tout ce que Dieu exigeait. Et vous diriez peut-être, je souhaiterais que ce soit tout ce qu'il exige aujourd'hui. C'est encore moins que ça. C'est simplement la foi dans sa parole. Et vous, si vous faites de sa parole votre absolu, vous pouvez, toute personne, toute promesse divine dans la Bible, vous pouvez y attacher votre âme. Peu importe combien les vagues vous fouettent, vous restez attaché. Votre absolu. Et si ici à cramponné. Et quand ses consolateurs ont dit, tu as péché. Il savait qu'il ne l'avait pas fait. Il était juste parce qu'il avait exécuté l'ordre de Jéhovah. Et quand chaque homme est venu en disant, tes enfants sont morts, un autre est en train de dire, tes chameaux sont entièrement consumés, un feu est descendu du ciel. Regardez quel genre des incommodaires avaient. Tu vois, le feu est descendu du ciel. Eh bien, Job, cela prouve, cela ne prouve rien. Eh bien, il n'aurait pas frappé tes enfants. Job, tu es un homme juste. Mais Job a dit, je sais que j'ai fait ce qui est juste. Il a continué à tenir bon. Il avait quelque chose qu'il pouvait enfoncer. C'est cela. Il avait accepté cela. Il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Et il en était absolument certain. Très bien. Et alors, quand il en est arrivé au point où on voit que cet absolu a tenu, alors finalement, il a commencé à sentir la corde s'étendre, alors qu'avant, elle flottait librement. Mais elle a commencé à s'étendre, et l'Esprit est venu sur lui, et il s'est levé, étant prophète, et a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Amen. Voyez-vous, il avait resserré ce lien avec son absolu. Il était entré en contact, il savait ce qu'il avait fait, ce qui était juste. Un jour, il dut se tenir jusqu'à lui. Je sais que mon Rédempteur vivant et que dans les derniers jours, il se tiendra là. Et même dans mon... que quand les vers auront détruit ce corps dans ma chair, je le verrai. Ici, alors, son absolu fut ancré. Abraham avait un absolu. Il venait de Babylone, de la tour. Il était dans le pays de Shinéar. C'est là qu'il séjournait avec son père. Et il était... peut-être fermé. Mais un jour, quelque part, tout au fond de la jungle, alors que peut-être il ramassait des baies et qu'il s'apprêtait à tuer un animal pour avoir de la viande à manger. Quelque part, par là-bas, Dieu lui a parlé alors qu'il avait 75 ans. Il avait lui et sa femme, Sarah, elle en avait 65, elle n'avait pas d'enfant. Ils étaient sans enfant. Alors, Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant par Sarah. Mais pour cela, tu devras te séparer. Les promesses de Dieu dépendent toujours de conditions. Vous devez absolument, peu importe combien vous êtes fondamentaliste avec la promesse, il y a toujours des conditions. Comme nous pourrions nous arrêter ici et parcourir l'écriture d'un bout à l'autre pendant des heures. Et nous verrions que la condition est ce qui importe. Vous pouvez être aussi fondamentaliste que vous le voulez, mais c'est sous condition d'après la promesse de la prédestination. Remarquez, eh bien, Abraham, il crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, quelle chose horrible ce serait d'affronter un monde civilisé, lui-même un homme de 75 avec une femme de 65, ils avaient vécu ensemble depuis qu'ils étaient jeunes parce qu'elle était sa demi-sœur. Et maintenant, avoir par elle un bébé, mais il avait un absolu. Rien n'allait l'ébranler. Et quand ce n'est pas arrivé, Le premier mois, son absolu a tenu parce qu'il savait qu'il avait parlé à Dieu. Le second mois, la seconde année, 10 ans, 25 ans plus tard, et quand il avait 100 ans et Sarah en avait 85, son absolu tenait toujours. Et la Bible dit quand sa notice biographique fut écrite après moi, Abraham ne douta point par incrédité au sujet de sa promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donna gloire à Dieu. Pourquoi? Avez-vous déjà pensé pourquoi? Il était absolument certain. Et la seule chose qu'il devait faire, c'était de se séparer de son peuple. Et Dieu ne l'a jamais bien béni avant qu'il ait fait. Il a pris son papa, et le papa est mort. Il a pris Lot. Et quand après que Lot se soit séparé d'Abraham, alors Dieu est venu vers lui et lui dit, a dit, maintenant marche à travers le pays. L'obéissance, la promesse sous certaines conditions, va toujours avec Dieu et sa parole. Maintenant, regardez, prenons Moïse. Moïse, le prophète serviteur fugitif, à qui Dieu avait donné l'éducation et l'instruction au palais de Pharaon, et Moïse est sorti avec sa formation théologique et il a tué le premier homme. C'est alors que devant son premier petit débois, Moïse eut une peur bleue. Pourquoi? Il n'avait point d'absolu. Il n'avait que le témoignage de sa mère concernant sa naissance. Il était un étrange enfant. Il avait la parole de sa mère à ce sujet. Il avait les rouleaux où Dieu avait peut-être un papier quelque part parce qu'ils avaient écrit et transporté avec eux, où Dieu allait visiter ses enfants. Il savait que c'était le temps, comme nous le savons maintenant. Mais nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Eh bien, Moïse savait que c'était le temps où il savait qu'il était choisi pour cela, mais il n'avait pas d'absolu. Voyez-vous? Et un jour derrière le désert, quand il avait perdu la vision, Dieu lui est apparu dans un buisson ardent. Et il lui a dit, Moïse, j'ai vu les afflictions de mon peuple. J'ai entendu leurs gémissements et les cris que leur font pousser ces inspecteurs lorsqu'ils les punissent. Et je me suis souvenu de ma promesse. Je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, pars en Égypte. Oh là là! Moïse s'est plaint en disant, je ne parle pas très bien, mon élocution n'est pas très bonne, ils ne me croiront pas. Il a dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il a dit, une verge, il a dit, jette-la par terre et devint un serpent. Il a dit, saisis-le par la queue, il redevint une verge. Il lui donnait l'assurance, une confirmation. Quand Dieu donne un absolu, il donne toujours une confirmation de cet absolu. Alors Moïse, une fois qui s'était trouvé là-bas, il a jeté par terre sa verge devant les magiciens, tout ça. Et les magiciens sont venus et eux aussi jeté leur verge par terre. Moïse n'était pas parti en courant. Oh bien, je me suis trompé. Ce n'était peut-être bien très magicien. Peut-être que je me suis trompé. Mais il savait, il était certain qu'il avait rencontré Dieu. Et il s'est tenu tranquille. Disons qu'il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Comme je avais fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Moïse avait suivi ses commandements. Alors, restez tranquille et observez la gloire de Dieu. Moïse était attaché à son absolu, à sa commission, et il est resté tranquille. Et à ce moment-là, son serpent a avalé tous les autres serpents. Voyez-vous? Il était attaché à cet absolu. Dieu a dit, quand tu auras délivré ses enfants, vous m'adorerez à nouveau sur cette montagne. Regardez comme l'ennemi essaiera par tous les moyens possibles de vous éloigner de cet absolu. Et alors qu'ils commençaient juste à sortir d'Égypte, ils se sont trouvés acculés dans l'isthme de la mer Rouge avec les montagnes de chaque côté. Ils arrivèrent par une vallée, se trouvaient devant la mer Rouge. Il n'y avait pas moyen d'échapper en passant par-dessus les collines, ni aucun moyen d'échapper en passant par ici. Et l'armée, le défaut, arrivait par ici. Et voilà un endroit. Voyez-vous comment le diable vous amène dans un endroit où vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Mais rappelez-vous, si vous êtes attaché à cet absolu, c'est bon. Moïse savait que Dieu lui avait promis que vous m'adorerez sur cette montagne quand tu les auras fait sortir. Et je suis descendu pour les délivrer par ta main et les placer dans cet autre pays. Il est resté bien avec cela. Et Dieu a envoyé un vent de rien souffler les eaux qui recouvraient la mer, le fond de la mer. Ils traversèrent à pied, en absolu. Combien nous pourrions parcourir les Écritures? Daniel, son absolu. Shadrach, Meshach, Abednego, leur absolu. David, son absolu. Tous, un absolu. Paul en avait aussi un. Celui que nous voyons dans notre lecture, il avait un appel centré sur Christ. Et c'était son absolu. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas peur de ce qu'Agrippa dirait. Cet énorme Agrippa était juif comme nous le savons. Et ainsi, quand il se tenait devant ce roi et d'autres, Dieu lui avait déjà dit qu'il s'y trouverait. Il avait donc un absolu. Il racontait exactement la vision céleste. Il a dit, je ne l'ai pas déshonoré, je ne l'ai pas sous-estimé, je ne me suis pas mal conduit. Mais il lui est resté fidèle et n'y a pas... Et il a exécuté cela à la minute par près, car c'était un absolu. Et toute vie centrée sur Christ, c'est votre absolu. Eh bien, depuis qu'il l'avait rencontré face à face sur le chemin de Damas, cela gardait une grande signification pour Paul. Maintenant, rappelez-vous qu'il était un érudit auparavant. Il était un homme très fort dans les Écritures. Mais il n'avait pas de poteau d'attache, ce n'est le soutien du Sanhédrin, un diplôme venant d'un grand docteur. Il était éminent dans sa branche, mais il était chancelant. Tout ce qu'il avait, c'est que son absolu serait aussi fort que l'État, qu'elle était son organisation. C'est là toute la force qu'il pouvait avoir. Et dans son travail, il était fidèle à cela. Et il prenait des chrétiens, les liait et causait des ravages dans leur rang. Il a même lapidé Étienne. Je pense que plus tard dans sa vie, la raison pour laquelle il est allé à Jérusalem, alors que le prophète lui avait dit, il n'y va pas Paul, car les chaînes et la prison t'attendent. Et Paul a dit, je le sais, mais je ne vais pas seulement à Jérusalem pour y servir de témoin, mais j'y vais en étant prêt à mourir pour Jésus-Christ. Car il savait ce qu'il avait fait, et son ambition c'était de sceller son témoin avec son propre sang. Mourir en tant que martyr, parce qu'il avait tué l'un des martyrs de Dieu. Et maintenant, le voici en route pour Damas avec toute son instruction. Il avait appris au pied de Gamaliel, ce grand docteur. Il avait été bien enseigné dans toute la religion juive. Mais malgré tout cela, il était peu solide. Il n'était pas apte à faire certaines choses. Et tout à coup, il eut une lumière, un grondement peut-être sous forme de tonnerre. Il fut frappé et tomba par terre. Et quand il leva les yeux, il y avait une lumière brillante qui l'aveugla. Quelle étrange chose! Personne d'autre n'a vu la lumière, si ce n'est Saul. C'était si réel pour lui que cela l'a aveuglé. Il ne pouvait pas voir. Il devint totalement aveugle avec cette colonne de feu qui resplendissait juste devant son visage. Et il entendit une voix lui disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il dit, « Seigneur, qui es-tu ? » Il dit, « Je suis Jésus. » Et il était difficile de régimer contre ses aiguillons. « Lève-toi maintenant, va à Damas, et là, on t'enverra quelqu'un. » Et alors, quand il s'est relevé de là, et il y avait quelqu'un, un prophète là-bas dans la ville, et qui une vision. Alors qu'il était en prière, il est venu, Ananias vint trouver Saul, lui imposant les mains, et il fut guéri par la guérison divine. Il s'est alors élevé, il fut baptisé, ses péchés furent lavés, il invoqua le nom du Seigneur. Alors il eut un absolu. Il ne fut plus jamais le même après cela. Il est allé directement d'église en église, de lieu en lieu, pour essayer de bâtir ce qu'il avait essayé de démolir. Combien la nation, combien le monde chrétien ce matin a besoin de ce type d'absolu. Ceux qui, au moins des credos, des traditions et des doctrines humaines, ont essayé de contester la parole de Dieu, la faculté d'être la même hier, aujourd'hui et pour toujours, et ont besoin d'un absolu, d'une expérience sur un chemin de Damas. Et le Dieu vivant qui peut guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Un authentique absolu. Paul savait que quelque chose était arrivé. Personne ne pouvait le lui enlever. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Il était attaché. Et c'était réglé. Peu importe ce qu'il allait arriver, il savait qu'il était attaché à une vie centrée sur Christ. Oh, la vie qu'il avait vécue était une vie différente. Maintenant, rappelez-vous, il avait été un homme religieux. Et pourtant, et pour certains de vous ce matin, je sais que vous réalisez que cette bande qui est en train de se passer sera jouée dans le monde, dans toutes les nations sous le ciel, pratiquement dans le monde entier. Et certains de vous qui êtes ici présents, et certains de vous là où les bandes seront jouées dans les autres nations, par un interprète donnant cela aux tribus d'Afrique, là-bas chez les Otanto et tout autour. Et vous, leaders religieux, vous qui avez simplement reçu un enseignement de la Bible, vous l'avez reçu à partir d'un point de vue historique et vous êtes peut-être capable d'expliquer toutes ces choses. Mais si vous n'avez pas un absolu, si vous n'avez pas une expérience, et si cette expérience que vous prétendez avoir, vous faites nier que chaque mot de ceci est tout aussi vrai pour l'Église aujourd'hui que jadis, et si vous vous confiez dans votre diplôme en lettres, ou que vous pouvez avoir, si vous vous confiez dans les pensées de votre organisation, qui pourrait dire le temps des miracles est passé, nous n'avons point de guérison divine et le baptême du Saint-Esprit comme ils l'ont reçu le jour de Pentecôte, n'est-ce pas, pour les gens d'aujourd'hui. Si c'est tout ce que vous savez, mon précieux frère, ma soeur, vous avez besoin d'une expérience sur le chemin de Damas. Vous avez besoin de rencontrer ce Dieu vivant où vous, pas seulement une pensée mythique dans votre esprit, pas un frisson ou une sorte de sensation, mais être enseigné par avoir l'expérience d'un absolument authentique. Le même Jésus qui marchait en Galilée est vivant aujourd'hui et vivant à jamais. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Un absolu qui fait que vous n'avez pas besoin de prendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Vous le savez de vous-même que ce n'est pas une quelque sensation. Et si la sensation que vous avez, et si quelqu'un, c'était peut-être une vraie sensation biblique, et que quelqu'un d'autre essaie de vous convaincre de connaître, disant que ces choses étaient pour un autre, faites attention, c'est vrai, faites attention, mais il y a un moyen de le savoir. Testez cela avec la parole. C'est le plan. Si la maison est construite, contrairement au plan, l'entrepreneur devra le démolir et la reconstruire. Elle doit être conforme au plan. Alors, peu importe votre esprit, quelque chose, en vous dites que cette Bible n'est pas vraie, que cette puissance de Dieu, les apôtres, les prophètes, les aimants et les pasteurs et les dons de l'esprit ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils coulaient à travers ces apôtres à la pendant. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre absolu. Il doit être attaché à un credo national plutôt qu'à la Bible de Dieu. Car il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Regardez bien ce que votre absolu. Vous pouvez être absolument certain que vous avez une bonne communion avec le pasteur. Et vous pouvez être absolument certain que vous avez une bonne communion avec le surveillant de district. Et c'est peut-être absolument certain que vous avez une bonne communion avec l'évêque, quelqu'un d'autre, n'importe. Mais si vous n'êtes pas, si votre absolu n'est pas basé sur Jésus-Christ, car sur cette pierre, je placerai mon absolu. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre lui. Une révélation spirituelle de qui il est et le connaître, lui. Très bien. Oh, maintenant, quand vous devenez comme Paul et que vous avez le même absolu que lui, une vie centrée sur Christ est une vie différente de celle que vous avez eu précédemment. Et il se peut que vous aviez une vie très religieuse. Oh, j'ai entendu des gens dire, mais ils sont très religieux. Ça n'a rien à voir. J'ai vu bien des religions, des gens très fervents, beaucoup de plus sincères qui professent les chrétiens aujourd'hui. Quand une mère peut prendre son petit bébé noir tout gazouillé et à peu près comme ça, et les jeter dans le cours. Je me demande combien sincère est le christianisme. Quand un homme peut se faire souffrir pareillement, fixant un millier de crochets dans sa chair comme cela, auxquels sont suspendus des bouts remplis d'œufs, le forçant à rester par terre comme ceci, depuis ici jusqu'à au bout de ça, et en signant en signe de sacrifice pour son Dieu, je me demande où en est le christianisme. Ne voyez donc pas que le Christ est la sincérité. La sincérité n'est pas tout. La sincérité est bonne si elle est placée sur la chose juste. Comme un docteur qui vous donne un médicament, il peut qu'il vous donne l'arsenic sincèrement. Il peut vous donner la substance sincèrement. Il se peut que votre ordonnance soit mal rédigée. Et il se peut que vous preniez cela en toute sincérité. Non, cela ne sauvera pas votre vie. Non, monsieur, vous devez savoir ce que vous faites et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, peu importe comment c'est, si ce n'est pas. Pierre leur a donné une prescription éternelle le jour de la Pentecôte. Il a dit, répentez-vous, chacun de vous soyez baptisé au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don de cette. Car cette prescription est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est juste, c'est une prescription éternelle. Eh bien, un pharmacien charlatan pourrait s'emparer de cela et vous tuer. Voyez-vous? Certainement. Vous savez, il y a une certaine quantité de poison dans une ordonnance pour empoisonner les gens. Et le docteur sait exactement quelle quantité votre corps peut supporter. S'il met trop de poison, cela vous tuera. S'il n'en avait pas suffisamment, alors cela, quel ferait cela fait? Cela ne vous servirait à rien de prendre le médicament. Eh bien, c'est ainsi avec la prescription de Dieu. Peu importe que quelqu'un dise que ça doit être fait comme ceci ou comme cela, ne le croyez surtout pas. Quand vous le suivez, quand vous suivez la parole directement à la lettre, c'est bon, c'est juste, tenez-vous-en cela. Maintenant, nous avons ceux qui disent que vous devez être. On a ceux qui disent que vous devez utiliser le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Telle ou telle chose existe dans la Bible. Il n'y a pas, de telles choses n'existent pas dans la Bible. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où quelqu'un a été baptisé autrement que le nom de Jésus-Christ. C'est l'Église catholique qui a perpétué cela par des traditions. Nous allons toucher tout cela. Mais remarquez, parmi tout cela, la prescription reste valable. Voilà pourquoi nous avons tellement d'enfants malades. C'est parce qu'ils n'écoutent pas ce que le docteur a dit. L'absolu, quand vous êtes attaché à cela, c'est bon, c'est la parole de Dieu, elle ne peut pas faillir. Une voix centrée sur Christ, très religieuse, mais ce n'était pas centré sur Christ tellement parmi beaucoup, parmi nous, nous avons cela aujourd'hui. Cela vous fait agir différemment. Je n'ai pas su. Quelque chose qui est réel, quelque chose qui est authentique. Et quand vous voyez quelqu'un agir stupidement, vous savez qu'il ne fait que se donner un air. S'il ne fait qu'essayer d'imiter la chose authentique. Quand vous voyez un faux dollar, souvenez-vous qu'il a été copié sur un vrai. Quand vous voyez un faux, c'est absolument l'ombre secondaire de quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui a été copié sur quelque chose d'authentique. Remarquez, cela vous fait faire des choses que vous ne feriez pas ordinairement. Et c'est quelque chose, vous êtes certain, vous êtes tout à fait certain de cela, quand vous obtenez cet absolu. Vous en êtes tout à fait sûr, vous ne prenez pas l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle le christianisme est devenu comme des petits-enfants dans la Bible. Pas, excusez-moi, des petits-enfants à l'école. Ils essaient de se copier l'un l'autre. Et si ces gars se trompent, l'ensemble est faux. Voyez-vous, vous avez induit tous ces groupes en erreur. Oh là là, ne copiez pas. Rencontrez-le vous-même. Un de mes bons amis ici, qui se tient au fond. Et le fils, il a un fils, et le fils de mon copain, un ami de toujours, le Jim Poole. Eh bien, son papa et moi, nous avons grandi ensemble à l'école. Quel brave garçon. Le petit Jim et moi, nous prions constamment pour que le grand Jim devienne chrétien. Un grand croyant. Le petit Jim et moi, nous étions en train de parler hier sur le fait que nous avions trouvé Dieu dans le bois et que nous l'avions vu dans la nature. C'est là que vous le trouvez parce qu'il est un créateur. Il est dans sa création. Et je me rappelle que Jim et moi, nous voulions aller chasser. Et quand la nuit arrivait, eh bien, nous prenions nos vélos et nous passions sur cette rue ici. Nous avions eu une paire bleue de passer près des cimetières et nous allions nous chercher une crème glacée. Jim allait jouer au billard et tout. Et Jim aimait s'asseoir et lire des histoires de chasse et de chasse au piège. Et moi, je m'asseyais, je rêvais. Maintenant, certains des garçons peuvent me voir. Je voyais une toute petite cabane quelque part là. Je pensais, oh, dis donc, ça serait peut-être une bonne cabane là, comme ça dans le bois. Et j'ai toujours rêvé qu'un jour j'aurai ma petite cabane dans les montagnes, une mètre de chien de fusil. J'ai toujours pensé, si je pouvais posséder un 30-30 une fois, comment au monde pouvais-je avoir ces 30-30? Et l'autre jour, je me tenais là et je regardais mon mur. Et en voyant certains de mes meilleurs fusils qu'on peut se procurer, j'ai pensé, grâce étonnante, j'ai pensé, je vais m'entraîner à tirer bien. Alors peut-être qu'une fois, je pourrais faire un voyage dans les montagnes, peut-être qu'un bon chasseur me prendra avec lui simplement parce qu'il voudrait protéger sa vie. Peut-être qu'on soit en train de chasser. Un homme riche qui ne sait. Peut-être qu'un jour je pourrais chasser en Afrique en tant que garde du corps si je pouvais simplement m'entraîner. C'est la seule chose que je puisse faire, c'est m'entraîner pour pouvoir toujours grandir. Et je pensais à cela. Jim avait l'habitude de s'asseoir et de lire. Il a dit, j'aime lire ces choses. J'ai dit, Jim, c'est quelque chose qui a fait cela. Je vais le faire moi-même. Je vais en faire l'expérience. Et quand je suis venu à Christ, je ne pouvais pas prendre l'expérience de quelqu'un d'autre. Je voulais la faire moi-même. Je me rappelle lorsque j'ai lu le Lone Star Ranger des Ingrés. J'ai abîmé deux ou trois balais de maman en galopant à travers la maison pour sur cette sorte de cheval de dos. J'ai lu cette histoire du shérif solitaire et la manière dont il a rétabli l'ordre dans la région du Big Bend. Et j'ai ensuite lu le roman d'Edgar Rice, Brode de Tarzan et le singe. Maman avait une vieille descente du lit enfourée, ça devait être une sorte de peau de phoque. Que quelqu'un lui avait. Elle était par terre dans sa chambre et j'ai amené ce tapis dehors. Maman ne sait pas que le vent ne l'a pas emporté. Et je l'ai pris dehors, je l'ai découpé, je m'en suis fait un costume de taille, je me suis installé dans l'arbre. J'ai vécu la moitié du temps dans un arbre, bien dans ça, parce que j'avais vu ça. Mais un jour, par la grâce de Dieu, je me suis emparé du véritable livre, la Bible. Mon chant et mon histoire ont été être comme Jésus sur terre. J'ai l'envie d'être comme lui. Je ne veux pas être évêque ou quelqu'un d'important dans l'église, un pape ou un prêtre. Je veux être comme Jésus. Un absolu vous rend différent. Il y a quelque chose à ce sujet lorsque vous lisez sa parole. Il y a quelque chose dans votre cœur qui fait que vous languissiez d'être comme lui. Vous êtes certain. C'est comme l'absolu pour le Christ, l'absolu pour le chrétien. C'est comme l'ancre du bateau. Et oui, vous devez avoir un absolu. Et si Christ est votre absolu, c'est comme l'ancre qui fait que lorsque la mer est très agitée et que le bateau est sur le point de sombrer, et votre unique espoir, c'est de jeter l'ancre. Et alors, si le bateau est ballotté, voyez-vous, l'ancre le retiendra. Vous savez, nous avons un chant. J'ai oublié le nom de l'auteur maintenant. C'est mon ancre tient. Comme ces petits garçons, comme nous y avons souvent passé, qui jouent avec son cerf-volant. Vous ne pouviez rien voir, mais il tenait la ficelle. Un homme a passé par là, lui a dit, quand tu es en train de faire fiston, il a dit, je fais voler mon cerf-volant. Il a dit, comment est-ce que tu le vois? Il a la ficelle. Il dit, mais où est le cerf-volant? Je ne le vois pas, mais comment sait-il ce qui est en train de faire voler ce cerf-volant? Je peux le sentir, ça tire, voyez-vous? Au bout de cette ficelle, il y a un absolu. D'après sa manière enfantine de voir les choses, ce cerveau-là était son absolu. Il pouvait donc dire qu'il faisait voler un cerveau-là, bien qu'il ne puisse pas le voir. Mais il tenait quelque chose qui le tenait. Il s'est emparé de quelque chose qui a une ancre là-bas et les tempêtes ne le branlent pas. Il sait que tout va bien pour lui. Il est ancré. Maintenant, si nous sommes dans notre petite barque, flottant sur l'océan solennel de la vie. Comme le grand poète l'a dit, la vie n'est pas un rêve vide, et l'âme qui dort est morte, et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. La vie est réelle, la vie est ardente, et la tombe n'est pas son but, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Cela n'a pas été dit de l'âme. Oh, je trouve cela si joli. Maintenant, Longfellow a écrit ce psaume de la vie, voyez-vous? Naviguant sur l'océan solennel de la vie, un malheureux frère naufragé, voyant cela, reprendra courage. Voyez-vous, maintenant, nous avons embarqué sur le bateau qui navigue sur l'océan solennel de la vie. Christ pour le bateau pris dans les tempêtes du temps. Quand les tempêtes deviennent fortes et que cela tangue, je suis content d'avoir une ancre qui tient à l'intérieur du voile, là-bas, quelque part. La mort elle-même ne peut pas vous en séparer, vous êtes attaché à votre absolu. Christ est notre ancre. Qu'est-il? Il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et l'a habité parmi nous. Alors quand nous savons que nos actions sont exactement en accord avec la parole, nous savons que notre enseignement est parfait avec la parole, n'ajoutant rien, ne retranchant rien, simplement la parole, et que nous voyons le même résultat que d'autres qui étaient ancrés dans la même parole, ont y apparaissant dans notre vie alors, notre ancre tient. La vie de Christ se reproduisant à travers vous, presque d'une manière incarnée comme il était, avec en Christ, parce que c'était Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et vous voyez Dieu en vous gardant le même équilibre dans la parole, exactement comme Jésus l'a dit. Et vous voyez sa vie. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Celui qui croit. Pas celui qui fait semblant de croire, celui qui pense qu'il croit, mais celui qui croit. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Pourquoi? Il est ancré au même rocher. Quel était le rocher? La parole, toujours. Vous êtes ancré là. C'est votre toile polaire lorsque vous êtes perdu en mer. Vous savez, nous avons beaucoup d'étoiles, mais il n'y a qu'une seule étoile véritable. Elle ne bouge pas, c'est l'étoile polaire. Parce qu'elle est là, elle est concentrée par rapport à la Terre. Peu importe si vous soyez derrière ou pas, c'est votre toile polaire. Maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de toits qui se déplacent. Mais si vous êtes sur la mer, eh bien, tout marin sait cela, ou tout chasseur qui parcourt les bois sait que votre toile polaire est ce qui compte pour vous. C'est tout. Alors, c'est comme votre boussole. Votre boussole n'indiquera pas Mars ou Jupiter, elle indiquera l'étoile polaire. Pourquoi? C'est votre absolu. Oh là là. Remarquez, votre absolu. Oh, je vais dire quelque chose. Je sens que c'est en train de venir. Remarquez, je me sens très religieux en ce moment-ci, parce que ça, c'est l'assurance. Remarquez, votre boussole peut seulement indiquer l'étoile polaire. C'est le seul endroit qu'elle peut indiquer. Si c'est une véritable boussole, elle tombera sur l'étoile polaire chaque fois, n'est-ce pas vrai? Alors, si vous avez le Saint-Esprit, il peut seulement indiquer la direction de la parole. Il n'indiquera jamais une dénomination. Il n'indiquera jamais un credo. Il n'indiquera jamais un autre endroit. Il indiquera directement la parole. J'ai envie de jubiler. Remarquez, c'est quelque chose à l'intérieur de l'homme qui palpite quand vous voyez votre étoile qui est placé là-bas, Jésus-Christ, la parole, et que vous voyez que l'esprit qui est en vous ne permet pas que ça aille à droite ou à gauche. C'est le seul qui puisse, il est venu pour prendre les choses de Dieu et pour les montrer, pour les manifester. Et Jésus a dit, il fera exactement les choses que j'ai dit. Il vous révélera les choses qui sont à venir, vous les montrera à l'avance avant qu'elles arrivent ici, voyez-vous. Il prendra les choses qui sont à moi et vous les montrera. Et alors, il vous montrera les choses à venir, Jean 15. Et nous voyons qu'il montre les choses, et il prendra les choses qui sont à Dieu, et vous les montrera. Et il vous révélera les choses que Jésus a dit, et d'autres, en tant que thème, il rendra la chose claire. Placez cela bien dans le coin ce soir, parce que nous allons bientôt nous en servir. S'assurant, rendant la chose certaine. Voyez-vous? Alors, vous savez que si votre toile, qui est la parole, tout ce qui est contre la parole, laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez ceci. Ceci est la révélation divine complète de Dieu, de sa volonté et de la venue de Christ. Et tout se trouve ici dans ces livres achevés. Si quelque chose vous éloigne de cela, jetez cette boussole. Parce que c'est seulement un credo. C'est seulement une organisation. C'est seulement un papier que vous avez dans votre poche ou qui est suspendu dans votre chambre, encadré. C'est un credo. Homme, trouvez la boussole qui vous amène vers la parole. Amen. Remarquez bien, alors, Paul eut cette expérience, il descendait en Égypte et en Arabie quelque part et il a étudié 3 ans. Gloire! Il devait être certain. Et quand il a vu quand le Saint-Esprit l'a dirigé, mot après mot, il a pu écrire ce livre des Hébreux pour montrer cela à ses Juifs. Certainement. Pourquoi il était centré? Cette boussole du Saint-Esprit l'a placé juste sur l'étoile polaire. Maintenant, si vous avez quelque chose qui vous en éloigne, vous ferez mieux de laisser ça de côté. Ça indiquera sa parole, et seulement sa parole. Parce que le Saint-Esprit est venu pour manifester ou pour confirmer la promesse de Dieu. Aucun credo ne le fera, aucune oration ne le fera, aucune puissance ou rien ne peut le faire, seulement le Saint-Esprit par la parole. Et il est le germe. Maintenant, vous prenez un grain de blé, un joli grain de blé, il ne peut rien faire. Il est mort jusqu'à ce que le germe entre en lui. Et il produira de nombreux grains de blé. Et Christ est cette vie, cet absolu-là. Si le blé n'a pas cet absolu en lui, il ne le verra jamais. Si ce blé n'a pas cet absolu, il est peut-être tout ce qui est de plus joli à l'extérieur, mais il ne peut pas vivre parce qu'il n'y a rien en lui pour lui permettre. Mais quand il obtient cet absolu, il peut regarder tous les critiques bien en face et dire, je ressusciterai. Pourquoi? Parce qu'il a l'absolu, c'est en lui. Il doit ressusciter. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. C'est cet absolu. Mais si vous avez des credos, tous les restes pris là-dedans, vous ne pouvez pas mélanger de l'huile et de... Vous pouvez prendre cela à fond. Et vous ne pouvez pas faire qu'un credo contraire à la parole. Et la Bible se mélange. Et la Bible se mélange. Vous ne pouvez pas faire qu'une dénomination, une religion née de nous. Un salut né de nous. Parce que Dieu traite seulement, je veux dire quand même, Dieu n'interrompt jamais son programme. Il ne peut pas l'interrompre parce qu'il est fini. Et je réalise, vous savez, que cela atteint beaucoup de gens, vous voyez. Mais Dieu ne peut interrompre son programme. Il ne peut pas faire quelque chose un jour et le changer à faire autre chose et dire qu'il s'est trompé. Dieu ne traite pas avec des groupes d'hommes. Dieu traite avec l'individu parce que l'homme est différent. À différents de Dieu prend cet homme, le façonne et le fait sortir lui-même jusqu'à ce qu'il l'amène à sa nature. Alors Dieu traite avec cette personne. Regardez à travers tous les âges, Noé, Moïse, les prophètes, jamais d'entrer en même temps. Toujours un à travers tous les âges. C'est pourquoi si vous dites le salut est dans le grand nombre de conseillers. Regardez un peu, comme je l'ai prêché ici au tabernacle il n'y a pas longtemps. Il y avait Akab, il y avait Josaphat. Et ils étaient en train de monter à Ramon-Gilead en Galal pour repousser. Finalement, ils avaient raison. Le pays leur appartenait effectivement. Et l'ennemi, le Syrien, là-bas, remplissait le ventre de leurs enfants. Avec les bleus, les Israélites devaient manger. Qui était leur propriété donnée par Dieu. Donc, fondamentalement, cela paraissait bien. Viens avec moi, montons-y et nous les repousserons du dedans. Eh bien, cela paraît vraiment bon. Fondamentalement, c'est juste. Mais il y avait des conditions. Josaphat était un brave homme, a dit, mais ne devons-nous pas consulter l'Éternel? Bien sûr, Akab a dit. Et bien certains, j'aurais dû penser, j'ai 400 prophètes hébreux. 400 gens nourris et dont je m'en occupe. Ce sont des meilleurs du pays, nous allons les faire venir. Et tout d'un commun accord, on dit, monte l'Éternel avec toi. Fondamentalement, ils avaient raison, mais ils n'avaient pas saisi cette option. Alors, quand il a dit, n'y a-t-il pas encore un? Il a dit, oh, il y en a encore un, mais je le déteste. Il dit toujours du mal de moi. Il dit toujours, comment pouvait-il prophétiser du bien alors que les paroles entières, Élie, il avait précédé, avait dit à Acab, les chiens lécheront ton sang. Maintenant, comment ces prophètes confirmés pouvaient-ils dire quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu? Il avait aussi dit que les chiens mangeraient Jézabel et que son cadavre serait comme du fumier sur la face des champs, de sorte qu'on pourrait se jeter. Alors, une malédiction comme celle-là sur un homme. C'était un jour. Comment un homme peut-il bénir ces choses qui éloignent tout le temps des gens de Dieu? Il n'y a qu'une chose à faire. Si vous devez rester seul, maudissez la chose au nom du Seigneur et restez avec cela. Quand vous êtes absolu. Mais vous direz, frère Branham, vous amenez les gens à vous détester. Dieu m'aimera. C'est mon absolu. Vous ne pouvez pas appuyer sur un bras de la chair. Vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu. Comment Michel savait-il qu'il avait raison? Il a attendu. Il a eu une vision. Il avait aussi une vision. Mais la vision, c'est comparé avec la parole. Aujourd'hui, c'est pareil. Michel a comparé sa vision à la parole. Alors, il a vu que lui et sa parole étaient corrects. Aujourd'hui, si votre vision est contraire à la parole, laissez-la tranquille, parce que c'est un faux absolu. L'absolu de Miché est exactement avec la parole. Il pouvait donc se tenir et dire qu'il a dit et croire cela. Il a dit, allez-y, si vous remontez, il a dit, tu les verras quand tu iras de chambre en chambre, c'est juste. Mais cet homme en prison, quand je... Mettez cet homme en prison. Et quand je viens, je traiterai avec lui. Maintenant, Michel, que dis-tu de celui-là? Ta tête sera tranchée quand il reviendra. Michel s'est tenu là, bien ferme, comme Étienne. Aussi près qu'elle était mon Seigneur lorsqu'il alla à la croix. Aussi à l'aise qu'elle était Daniel lorsqu'il entra dans la fosse au lion qui chadait avec Michel Kabenengo. Absolument, il s'est tenu là, il a dit, si jamais tu reviens. Pourquoi? Il était absolument sûr. Si jamais tu reviens, Dieu ne m'a jamais parlé. Alors coupe-moi la tête. Il avait un absolu. Il savait que sa boussole qu'il avait conduit vers cette vision était alignée exactement sur l'étoile polaire. Oui, monsieur, son ancre a tenu bon. Oui, la parole, elle suit. Si votre absolu, si vous avez un absolu dans votre vie, il y avait une époque, vous savez, où l'étiquette avait son absolu. Je ne peux pas penser au nom de cette femme, mais la nation entière avait confiance dans ce que disait cette femme. J'ai oublié son nom. J'ai écrit une note, je n'arrivais pas à me rappeler le nom de cette femme. Maintenant, il y a quelques années, cette femme, ce qu'elle disait, elle disait de tenir le couteau à la main gauche, c'était ainsi. C'était l'absolu. Elle était la réponse à toutes ces questions. Et si vous teniez la fourchette à la main droite, alors vous étiez absolument dans l'erreur. Comment s'appelait-elle, l'assemblée? Oui. Maintenant, vous étiez, elle était absolument à l'étiquette. C'est devait être ainsi. Nous trouvons bien des choses comme cela. Mangez comme vous le voulez. Maintenant, cela a disparu. Mangez comme vous voulez. Très bien. Mais c'était l'absolu de l'étiquette. Vous devez le faire ainsi. Il y avait une époque où Adolf Hitler était l'absolu de l'Allemagne. Quoi qu'il dise, quand il disait « sauter », il sautait. Quand il disait « tuer », il tuait. Des millions de Juifs, il faisait un signe de la tête. Vous voyez ce qui est arrivé à cette sorte d'absolu? Cela ressemble à de la puissance, mais c'était contraire à la parole. Comment savez-vous que c'était contraire à la parole? Dieu a dit, n'est-ce pas, Balaam, qui essaie de mépriser Israël et chercha à les maudire. Il a dit, je les vois comme un bouc. Quelles sont belles tes tentes. Maudit soit qui compte maudira, béni soit qui compte bénira. Il semble qu'Hitler aurait pu voir cela. Il semble que les chrétiens auraient pu voir cela. Voyez-vous, c'est absolument contraire à cette parole. Vous savez, comme cela a été, Dieu a fait l'homme, mais l'homme a fait des esclaves. L'un essayant de dominer sur l'autre, vous avons un dirigeant. Mais Hitler était l'absolu de l'Allemagne. Regardez cela aujourd'hui. Maintenant, vous voyez ce qui s'est arrivé? C'était un mauvais absolu. Pourquoi? Il était contraire à la parole. Et maintenant, vous voyez ce à quoi tout cela a abouti? Si votre absolu est dans une quelconque organisation et une sensation, quelque chose d'autre que la personne de Jésus, vous aboutirez à la même part de honte, c'est le même pire. Vous voyez, si votre absolu n'est pas Christ. C'est le seul poteau central de la vie humaine. Et Christ est la parole. Pas votre église, votre parole, la parole. Voyez, sur cet absolu, je bâtirai mon église. Sur Christ, la parole. Il y avait une époque où Mussolini était l'absolu de Rome. Je ne sais pas, il se peut que j'ai lu un article ou il se peut que j'ai lu cela dans un livre, quelqu'un me l'a dit. Mais il s'agissait de quelqu'un qui était interviewé par Mussolini. Il voulait faire participer Rome à l'athlétisme. Et on avait érigé là-bas une grande statue de lui en rapport avec l'athlétisme. C'est très bien. La Grèce en avait eu l'idée il y a de nombreuses années. Rome a toujours essayé de voir cela. C'est bien d'avoir les athlètes et de l'athlétisme, mais rappelez-vous, cela ne prendra pas la place de la part de Christ. Peu importe combien vous êtes fort, cela n'a rien à voir avec cela. Il est tout puissant. Et vous voyez sur quoi il essaie de construire Rome. Il a essayé de bâtir Rome sur une affaire d'absolu. Qu'il était lui, cet absolu. On raconte qu'un jour, son chauffeur est arrivé une minute trop tôt. Et il a abattu. Il a dit, je n'ai pas dit d'être ici à 9h moins une, j'ai dit d'être ici à 9h. Voilà. Il a abattu, voyez-vous. Je ne veux pas que vous soyez ici une minute à l'avance, je veux que vous soyez ici à 9h. Voyez-vous. Regardez cette sorte d'absolu. Il a essayé de se faire. Mais vous voyez ce qui est arrivé. Vous vous rappelez, beaucoup d'entre vous ici, les anciens Ross Lothair, peut-être, vous vous rappelez lorsque là, je vous ai dit ceci par prophétie. Un jour là-bas, au bâtiment d'appel Odd Fellow, avant même que nous venions ici, j'ai dit, Mussolini aurait une fin honteuse. J'ai dit, pour sa première invasion, il ira à l'Éthiopie et l'Éthiopie tombera à ses pieds. Mais il arrivera à sa fin et personne ne l'aidera. Il sera enterré dans la honte. Ce fut ainsi. J'ai dit, il y a trois ismes qui sont à Paris, nazisme, fascisme et le reste. J'ai dit, ces ismes vont évoluer, aboutir à un sens, ce sera le communisme. Observez le communisme. Le communisme brûlera alors Rome. Observez cela. C'est un instrument dans la main de Dieu. Ils pensent qu'ils sont contre Dieu alors qu'en fait, ils collaborent de plus en plus sans le savoir. Dieu se sert d'eux-mêmes comme d'une manœuvre, comme il a fait avec Nebuchadnezzar et beaucoup d'autres. Maintenant, remarquez, il y avait une époque où Pharaon était l'absolu d'Égypte. Mais regardez où il en est maintenant. Vous voyez, tout a failli. Et c'est une mauvaise sorte, donc ils faillissent toujours. Ce sont des absolus, des fabrications humaines. Peu importe ce que c'est une. Ouais. Ben, si c'est un roi, une église, que ce soit une race, que ce soit un credo, toutes choses vont périr comme tous les absolus de ce type-là à travers les âges. Nous pouvons regarder les hommes qui ont mis leur confiance dans les empereurs. Regardez les hommes qui ont mis leur confiance dans les dictateurs. Regardez les hommes qui ont fondé leur espoir sur des sortes d'absolus. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Maintenant, faisons demi-tour. Regardons les hommes qui ont placé leur espoir sur la Bible, sur la parole de Dieu, et qui l'ont prise comme absolue. Regardez où ils en sont maintenant. Paul vous donne un petit résumé de ce qu'ils ont fait dans Hébreux au chapitre 11. Il raconte comment ils vainquirent les rois, exerçaient la justice, ainsi de suite. Ils allèrent s'aller vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, et dont le mot n'était pas digne. Attendant la gloire, cette formidable résurrection. Voyez-vous, très bien. Car c'était d'entre eux n'ont pas obtenu ce miracle. Ils ont donné malgré tout leur corps. C'est réjouissant à l'avant de cette résurrection. Ils ne s'inquiétaient pas. Déterminés comme ça. Ils voulaient continuer ce sacrifice en fait qu'ils puissent obtenir une résurrection. C'est ce qu'ils ont fait. Bien, nous parlons donc d'absolu. Vous savez, notre absolu suprême est un absolu. Notre cour suprême est un absolu. C'est un absolu. C'est la fin de toute discussion dans ce pays. La cour suprême, c'est juste. Leur décision dans notre cour suprême est un absolu. C'est juste. Et je sais que parfois nous n'aimons pas cela. Mais c'est malgré tout un absolu. Oui, monsieur. Qu'arriverait-il si nous n'avions pas cela? Mais c'est un absolu. Certain. Pourquoi? Notre nation est rattachée à cela. Mais quand cette Cour suprême prend sa décision finale, ça y est, il n'y a pas... Où allez-vous aller après cela? Vous allez suivre leur décision, c'est tout. Vous y êtes contraints. Ils sont les derniers mots. Ils sont la main. Vous pouvez passer par des tribunaux locaux, municipaux. Vous pouvez passer devant les juges, puis passer devant toutes les sortes de tribunaux. Aller jusqu'au tribunal. Mais quand nous arrivons à la Cour suprême, ça y est, quand, parfois nous n'aimons pas ça, mais bien, je n'apprécie pas les hommes, mais c'est une fois de vous y soustraire. C'est l'absolu de la nation. Qu'arriverait-il si nous n'avions pas cela? Oui, oui. Nous devons avoir un absolu. Chacun doit en avoir. Ouais. Mais ce que j'essaie de vous dire, j'ai fait un tour d'horizon pour vous montrer ce que sont ces absolus. Donc, la Cour suprême du pays est l'absolu de la nation. C'est la fin de toute dispute. Ils règlent cela et ce qu'ils disent, c'est bien, c'est ça. Il y a un absolu dans un jeu de ballon. Et c'est l'arbitre. Oh oui, parfois nous n'apprécions pas sa décision non plus, mais c'est quand même ça. L'arbitre, sa décision est sans appel. C'est vrai. Peu importe ce que l'autre dise. S'il dit que c'est un strike, c'est un strike. C'est un coup. C'est un coup. C'est vrai. Certainement, peu importe ce que d'autres disent, ça n'a rien à voir. Mais personne simplement, je ne veux pas, je n'ai pas au match, mais j'ai juste noté cette idée. Un arbitre est l'absolu du jeu de balle. Un autre dit, c'était une balle. Et l'autre dira, tu es menteur. Et celui-ci dira, ce n'est pas comme cela, c'est la nouvelle. L'autre dira, strike, l'arbitre. Vous voyez, alors les autres, leur place, regardent comment ils se reçoivent. Certains d'entre eux vont ranchonner. J'imagine qu'ils souffleront et lui offriront cela dans leur cœur, mais c'est malgré tout un strike. Pourquoi? Il est le dernier mot. Le premier gardien de base dira, vous savez, c'est ça, ça passe. L'autre dit, tu sais que c'est faux. Il dira, strike, un point, c'est tout. Alors taisez-vous et retournez à votre place. Qu'arriverait-il s'il y avait point d'arbitre à un jeu de ballon? Oh là là, pourriez-vous imaginer quelle sorte de jeu ce serait? L'un d'entre eux dirait, c'est un strike, c'est un. L'autre dira, c'est si l'autre dira, c'est là. Tu es menteur. Pour avoir un jeu de ballon, vous devez avoir un absolu. Alors, il s'avance sur le terrain, peu importe que vous l'appréciez ou non, il est quand même, il est absolu. Sa parole est sans appel, peu importe ce que vous en dites, c'est ainsi. Eh bien, s'il n'avait pas ça, toute la partie deviendra un chaos. Qu'est-ce que la nation serait s'il n'y avait point de tribunal fédéral? S'il n'y avait pas de cour suprême dans ce pays, où ira-t-il? La nation serait dans un chaos s'il n'y avait pas d'arbitre à un jeu de ballon. Cela finirait, vous n'auriez pas touché le ballon, quelqu'un ferait déjà des histoires. Quelqu'un se tiendrait peut-être qu'il s'est allé effectivement sur la base, mais l'autre gars dirait non. Il n'a pas fait ainsi. Et voilà, ça commence dès la première balle lancée. Ils argumenteront. L'un d'entre eux dirait, c'est un strike. Et l'autre dirait, ce n'est pas un strike. Vous voyez, vous devez avoir quelqu'un sur qui ce jeu repose, c'est l'arbitre. Quand il dit strike, c'est strike. S'il dit balle, c'est balle. Quoi qu'il dise, c'est bon, c'est ça. Et si vous ne faisiez pas ainsi, vous n'auriez pas un point de jeu. Laissez-moi vous montrer un autre absolu. C'est le feu rouge. Un feu rouge. Quand il dit stop, cela veut dire stop. Si vous le passez, vous allez le payer. Mais si cette ville n'avait pas de feu rouge, quelle sorte de ville serait-ce? Elle doit avoir un absolu. Peu importe ce que l'agent de police a dit, peu ou n'importe qui se tenait là, il passe en second. Si quelqu'un peut prouver que vous avez passé la lumière verte, peu importe ce que dit l'agent de police, ils ont tort. Quand la lumière dit départ, cela veut dire départ, c'est l'absolu. Vous pouvez prouver que la lumière a dit départ. L'agent de police s'éteint peut-être là. Cela ne fait pas la moindre différence si vous le savez, si vous avez la preuve que cela a été départ. Si quelqu'un vous touche, c'est de sa faute. Nous pouvons prouver ce que nous disons. Maintenant, qu'arrivait-il s'il n'y avait point de feu rouge? Quelqu'un arrivait à toute vitesse dans le carrefour. Regardez, quelqu'un dit, hé, enlevez-vous du chemin, je dois aller au travail. Je suis en retard maintenant. Je vais traverser maintenant. L'on dirait, n'y pensez pas parce que c'est moi qui vais traverser parce que j'étais ici en premier. Et je peux voir une femme sortir de sa voiture et arranger ses cheveux. Qu'arriverait-il si nous n'avions point de feu rouge? N'y aurait-il pas un bel embouteillage? C'est ce qui se passe avec les églises. Avez-vous? C'est la raison pour laquelle nous avons un tel embouteillage de missionnaires. Exactement. Personne n'arrive à quelque chose. Il reste là-bas à se disputer. Voici la lumière de Dieu. Quand elle dit départ, allez-y. Quand elle dit stop, c'est suffisamment loin. Alors arrêtez. C'est tout. C'est là-dessus que nous nous fondons, c'est cette parole. Pas sur ce que certains groupes d'hommes ont dit. Jésus a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Allons-y! Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Toute la création. Vous savez aussi, bonne que soit l'instruction, Jésus n'a jamais exigé cela, c'est vrai. Aussi bonne que soient les églises, les bâtiments, il n'a jamais exigé cela. Mais bon que ce soit les hôpitaux, les églises ont construit les hôpitaux, c'est bien. Nous apprécions cela, mais il n'a jamais exigé cela. Il a dit à l'église, prêchez l'évangile. Et l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais aussi en puissance et en manifestation de la parole. C'est ce que Paul a dit. Alors, allez manifester l'évangile. Oh là là, si c'est là, si c'est ainsi. Et aujourd'hui, nous vivons dans un temps où nous avons des meilleurs docteurs que nous n'avons jamais, jamais. Nous avons les meilleurs médicaments à disposition, vous savez. Et nous tirons notre chapeau à ces hommes. Nous prions pour eux. C'est ce que je fais. J'espère que vous le faites aussi. Ces hommes qui, avec leur compréhension, ce qu'ils sentent, ils ont deux sens pour les guider dans leur travail. C'est la vie et le toucher. Et lui, il travaille d'après le but du cœur, un tumeur ou un qui touche, ou d'après la vie de quelque chose qu'il peut voir, la propagation d'une maladie, quelque chose qui recouvre le visage ou le corps quelque part. Il travaille d'après ces choses, voyez-vous? Parce qu'ils essaient de prendre des médicaments, une certaine quantité, tu auras cela, mais ne vous tueras pas. C'est leur affaire de travailler sur cela. Nous apprécierons, mais nous avons les meilleurs docteurs, les meilleurs médicaments, les meilleurs hôpitaux, et plus de maladies que nous n'avons jamais eues. Nous avons davantage d'incrédulité que jamais. Oui, monsieur. Les prédicateurs ne sont pas organisés et des grandes nations acceptant n'importe quoi au milieu de n'importe quel prêtre faisant. Ils ont gagné quelque chose qui ressemble à un incubateur au Sénat. Vous éclosent en passant par un broyeur et faisant sortir comme cela. Et parfois, ils ne connaissent pas plus Dieu que nos tantonnerais. Ne connaît ni une égyptienne. Ils les en font sortir comme cela. Oh, ce dont nous avons besoin dans nos églises, c'est d'un homme qui a un absolu. Ce dont nous avons besoin dans l'église méthodiste, dans l'église baptiste, dans l'église pentecôtiste, l'église presbytère, c'est d'un absolu. Un homme de Dieu qui restera attaché à la parole de Dieu à Christ. Et qui amènera cette congrégation dans cette condition où chaque membre marchera d'après cette parole, voyant cette parole manifestée. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru partout dans le monde. Cela a été absolu. Mais Jésus a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous n'avons pas encore atteint le monde entier, bien loin d'avoir chaque créature. Jusqu'où alors? Partout le monde, vers qui? Chaque créature. Qu'arrivera-t-il? Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils feront pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les mains, ils seront guéris. C'est l'absolu qui tient là. La parole, cette étoile polaire, cette boussole qui reste exactement avec cela. C'est ce dont nous avons besoin. Mais nous sommes allés construire des institutions, nous avons organisé les gens, créé des membres, nous avons, nous sommes disputés avec les baptistes et les absolus et acheté ces. Et nous avons monté un grand séminaire, conçu des grandes églises avec tous ces gens. Et les gens, les mieux habillés, ils sont amenés les mains à tous les gens dans l'église. Et qu'avons-nous obtenu? La mort, attachée à un absolu dimensionnel, la mort. Oh, pourvu que non. Si je meurs en pleine activité, mon absolu est Jésus-Christ. C'est à cela que je crois et si tout le monde s'en va. Quelqu'un m'a dit, le docteur Davis m'a dit, Billy, tu prêches une telle chose, tu la prêcheras sur les poteaux. Et j'ai dit, je prêcherai alors la parole de Dieu au poteau parce que Dieu peut de ses poteaux susciter des enfants à Branham. C'est vrai. J'ai dit, et vous croyez que ce n'est pas mon plan d'affaire. Mon plan d'affaire, c'est de rester fidèle à cette parole. Il a dit, tu penses que tu pourras aller au devant d'un homme instruit comme ceci avec une étrange de guérison divine. J'ai dit, ce n'est pas ma guérison divine, c'est sa promesse, celui qui a donné la commission. Oh, je me rappelle quand il est descendu là-bas dans cette grande lumière, alors que je n'étais pas là-bas, j'étais là dans la fleuve en 1933, je lui ai dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ, je t'envoie avec un message pour le monde, pour annoncer et préparer la seconde venue de Christ. Et il est allé dans le monde entier, et le feu du revêt était allumé durant 15 ans sur presque chaque montagne. La guérison divine à travers les nations et la puissance et la restauration. Et maintenant, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant final là-bas pour produire une foi qui enlèvera l'Église dans la gloire et se trouve dans les messages. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous en avons parlé, tout le reste, mais la chose est arrivée sur nous maintenant. Écoutez-les, oui, monsieur. Et voici un, c'est juste. Le feu rouge, comme je l'ai dit, règle l'affaire. C'est tout. Le feu rouge vous dit qui part. Peu importe ce que dit quelqu'un d'autre, c'est ce que le feu rouge dit. Vous pouvez vraiment avoir un embouteillage si vous ne le faites pas, si vous ne tenez pas compte du feu rouge. Il doit y avoir un absolu. Oui, monsieur. Comme pour l'Église, il doit y avoir un absolu. Pour les gens dans l'Église, il devait y avoir un absolu. Mais aujourd'hui, chaque Église a son propre absolu. Vous voyez, il n'essaie pas de prendre. Nous, baptistes, nous croyons ceci. Nous, méthodistes, nous croyons ceci. Nous, presbytériens, nous croyons ceci. Nous, pentecôtistes, nous croyons ceci. C'est très bien, mais pourquoi ne prenez-vous pas le reste de cela? Qu'en est-il du reste de cela? Nous, baptistes, nous croyons à l'immersion, c'est bien. Maintenant, qu'en est-il du baptême du Saint-Esprit? Qu'en est-il du parler en langue? Qu'en est-il des dons de guérison? Qu'en est-il de la prophétie? Oh non, nous ne croyons pas, c'est pour un autre âge. Oh là là. Vous, pentecôtistes, vous dites bien, nous nous croyons parler en langue comme évidence. Certainement. Le parler en langue est très bien, mais ce n'est pas malgré tout, ce n'est pas l'évidence. Bien, les gens parlent en langue. Le diable peut imiter n'importe quel don dans la Bible. Paul a dit, quand je parlerai en langue des hommes et des anges, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, quand je vendrai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, quand j'irai au séminaire, j'aurai appris toute la connaissance à apprendre, j'ai toute la connaissance, je suis encore rien. C'est la personne de Christ. Christ, recevez-le et vous ne pouvez pas le recevoir. Lui, sans recevoir sa parole, la parole doit venir premièrement, puis la vie entre dans cette parole et manifeste cette parole. Jésus n'a-t-il pas dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, on ne me croyait pas? Et c'était la parole de Dieu étant manifestée. Dieu était en Christ, réconciliant, exprimant lui-même au monde ce qu'il était. C'était l'absolu. C'était l'absolu éternel. Vous me direz alors, qu'est-ce que c'est l'éternel vraiment? Et c'est l'éternel. Quel est-il Dieu aujourd'hui? Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, le fera aussi. J'ai le même absolu, très bien. Chacun a son propre absolu. Oh là là. C'est comme, c'était au temps de juge, chaque homme faisait ce qui. Au temps de juge, chaque homme faisait son propre. Il faisait simplement ce qu'il voulait. C'est ainsi maintenant, chaque homme fait ce qu'il est juste à ses propres. Maintenant, vous connaissez la raison pour laquelle ils ont fait cela? Dans les juges? Cela vous choquerait peut-être. Mais la raison pour laquelle ils ont fait cela dans les juges, c'est qu'il n'y avait point de prophète dans ce temps-là à qui la parole de l'Éternel pouvait être venue. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de prophète dans ce temps de domination. Mais Dieu nous en a promis un. Ouais. Certainement, dans les derniers jours, il suscitera enverrait à nouveau Élie. Il ramènera les cœurs des enfants à la foi de Père. Un retour à la Pentecôte originale. Vous savez ce qu'il a dit? Je sais que vous vous référez comme lui à Jean. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 6, je crois que c'est ce truc-là. Quand ils ont dit, que penses-tu de cet homme Jean? Il a dit, si vous pouvez le recevoir, c'est celui dont il est écrit. Voici, j'enverrai mon messager devant moi. C'est Malachie 3 et pas Malachie 4. Mais rappelez-vous, si c'était celui de Malachie 4, alors la parole a manqué parce qu'il a dit, juste à ce moment-là, le monde entier serait brûlé et que le juste marcherait sur le sang des méchants. Non, ne mélangez pas cela, frère. Faites-lui dire exactement ce qu'il a dit. C'est juste. Il a promis cela dans les derniers jours. Et cela sera ainsi. Rappelez-vous, dans les juges, chaque homme faisait comme il voulait. Il n'y avait aucun homme qui puisse faire vivre cette parole. Il n'y avait aucun prophète. La parole du Seigneur vient toujours au prophète. C'est exact. Et il est toujours détesté. Il n'y a qu'un petit groupe qui l'aime. Voyez-vous? Mais je veux dire qu'il y a toujours eu cela. Mais Dieu ne change pas sa politique. Il ne peut pas y rester Dieu. Et si Dieu dit quelque chose de lui, il fait quelque chose. Il doit le faire la prochaine fois. Quand cette crise arrive, il n'agit pas de la seconde comme il a fait la première fois. C'est qu'il a mal agi la première fois. Et qui accusera Dieu de mal agir? Qui est-ce que vous pouvez accuser Dieu? Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Qui d'entre vous me convaincra du péché? Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Lequel d'entre vous peut me montrer que je n'ai pas accompli tout ce que le Messie devait faire? Voyez-vous? Personne n'a dit un mot. Il avait fait. Le Messie était un prophète. Il avait démontré qu'il était seul. Il n'avait pas eu de prophète pendant des centaines d'années depuis ma chérie. Et en voici un qui apparaît sur la scène. Il était un mystique pour les gens. Et une pierre d'achoppement pour leur église. Parce qu'il a dit, voici, je mets en sillon une pierre angulaire, précieuse et prouvée. Oh, une pierre d'achoppement, oui. Mais quiconque croit en lui ne sera point confié. C'est juste. Et voilà. Et il accomplissait exactement l'écriture. Mais ceux qui croyaient en lui avaient un absolu. La petite Marthe, quand elle a vu Lazare sortir du tombeau, elle a su qui c'était. Avant même que cela n'arrive, elle avait l'absolu. Vous savez, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Même maintenant, bien que mon frère soit mort, dis simplement à la parole, Dieu le fera. Amen. Il était absolument certain. C'est juste. Quand il a dit cela, c'est vraiment venu de son cœur. Il a dit, où l'avez-vous enseigné? Il a dit, viens voir. Et il s'est tenu là avec une vision parce qu'il a dit, je ne fais rien avant que le Père me le montre. Jean 5, 19. Il a envoyé loin de la maison, là, il l'a envoyé chercher parce qu'il venait. Il savait que Lazare allait mourir. Après un certain temps, il a dit, notre ami Lazare est mort. Il a dit, il est mort à cause de vous. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Il est alors revenu, il a dit, mais je vais le réveiller. Oh là là. Père, pas je vais aller voir ce que je peux faire. Je vais le réveiller. Pourquoi? Le Père m'a déjà montré ce qu'il faut faire. Il est allé au tombeau, là c'était un homme, là c'était un Dieu dans la chair qui aurait pu dire à cette pierre, dissous-toi, et ce serait dissous. Mais il a dit à ces femmes, à ces pauvres petites femmes, à ces petites femmes, ôtez la pierre. Vous avez aussi quelque chose à faire, voyez-vous? Elles roulèrent la pierre, cela les rendit par là. Il s'est tenu là. Oh là là, je peux le voir redresser son frère, le petit copain, parce que la Bible dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'était pas grand-chose à voir, voyez-vous? Tout comme David, il fut choisi comme un roi, alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Tous ces grands, parce que n'est-il pas celui avec un grand? Samuel a dit qu'il a rejeté. Il a passé tous ses fils. Il a dit, n'as-tu pas encore un autre? Nous en avons un, mais il n'aurait pas l'air d'un roi. C'était un tout petit aux épaules. Va le chercher. Et aussitôt, il est arrivé devant le. Et l'esprit est tombé sur lui. Il a dit, il a couru avec cette huile et a versé sur sa tête. Il a dit, voici votre roi. Et Jésus s'est tenu là, les épaules arrondies peut-être, commençant à grisonner alors qu'il n'avait encore plus. La Bible a dit, et les Juifs ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. Et dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh là là. Oh, Jean 6. Nous les retrouvons donc debout près du tombeau. Il savait que cette vision devait se confirmer. Il savait que il se sentait mauvais, enveloppé dans la habit mortière. Mort depuis 4 jours, son nez s'était déjà affaissé. C'était né là à redresser son petit corps, a dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même si c'est vraiment. Citez-moi un homme qui puisse faire comme ça. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle a dit, oui Seigneur, bien qu'il ait manqué à son égard, il a fait, il n'est pas venu. Et elle a dit, je sais que tu es le Christ qui devait venir dans le monde. Il a dit, Lazare, sors! Un homme qui était mort depuis 4 jours. Pourquoi? Quoi? Christ avait l'absolu. Il avait eu la vision. Il ne pouvait pas venir, c'est juste. Il ne pouvait pas faillir. Il en était absolument certain. Et Marthe était absolument certaine. Elle pouvait l'amener à reconnaître qu'il était ce qu'elle croyait. Elle obtiendrait ce qu'il demandait. C'est juste, les voiles à l'absolu, c'était lié à la parole, c'était cela. Chacun aujourd'hui, tout sait, fait ce qui est bon à, à saisir parce qu'il n'y a point de prophète. Regardez au point de juge. Regardez donc au temps d'eux. Je crois qu'il s'agissait de lui, des élèves ou l'un d'entre eux. Il y avait le bébé mort et la femme tsunamite. Et elle était l'homme de Dieu de ce moment-là. Pas juste un bon enseignant intelligent. C'était un vieil homme qui allait d'ici de là. S'il était venu à votre porte, la nation entière le détestait. Jézabel et tous les autres les haïssaient. Parce qu'elle se trouvait à la Maison Blanche, elle faisait toutes les autres femmes face comme elle, tout de suite. Et Acab était sous son emprise. Nous n'en sommes pas trop éloignés aujourd'hui. C'est presque pareil, bien voilà. Ils avaient tous tout accessé la populaire et ils étaient tous. Et cette petite dame, non pas tsunamite, mais je crois que c'était une tsunamite. Quand elle est venue et qu'elle a vu cette puissance était en elle, elle a dit, je vois que c'est un saint homme. Et quand ce bébé était couché à la mort, elle a dit, celle se mue et ne t'arrête surtout pas. Elle s'est rendue là-bas et savait, j'aime cela, la manière dont elle est venue. Elle est arrivée avec son poteau. Et voici cette tsunamite qui s'approche, elle a du chèque, mais je ne sais pas. Voyez-vous? Elle a dit, Géasi, cours et vois ce qui ne va pas. Elle a dit, te porte bien, ton mari se porte bien, ton fils se porte bien. Elle a regardé là-bas. Et c'est là, elle a répondu, tout va bien. Pourquoi? Elle était arrivée vers son absolu. Tout va bien. Elle s'est agenouillée premièrement, elle est tombée à ses pieds. Géasi l'a relevé. Ce n'était pas juste devant son maître, il l'a relevé. Elle a commencé à lui raconter. Et à ce moment-là, il n'avait pas d'absolu. Il savait qu'il avait le pouvoir par la vision de lui donner la femme. Mais maintenant, que pouvait-il faire? Il a pris son bâton et est entré dans la chambre, a fermé toutes les portes et a fait sortir tout le monde. Il a marché le long en large dans la chambre. Il avait l'absolu, il pouvait seulement le rencontrer. Il faisait des 100 pas dans la chambre. Oh là là! Tout à coup, il a senti quelque chose de frappé. Il s'est couché sur le bébé. Il s'est relevé et s'est nettoyé. Le bébé a eu un peu bougé. Il s'est relevé ensuite et il n'avait eu un bon contact avec le bébé. Qu'est-ce que Seigneur, que m'as-tu dit? Sans doute, quand il s'est retourné, il a eu une vision de ce petit garçon qui portait jouer en courant et que c'était là-bas à corde et quelque chose. Et puis il s'est jeté sur le bébé. Il a collé son nez sur son nez, ses yeux sur ses yeux. Et la puissance de Dieu a ramené le bébé à la vie. Qu'est-ce? L'absolu de la femme, c'était une prophète. L'absolu prophète, c'était Dieu. Et ensemble, et ramenant le bébé à la vie, certainement. La raison pour laquelle chacun agissait à sa manière, c'est qu'il n'y avait pas de prophète à qui la parole de l'Éternel pouvait être adressée. La parole et le prophète manquaient en ce temps. Oh, j'ai vu ceci à ma conversion à propos du temps dans lequel nous vivons. Je suis si content que Dieu se soit emparé de moi avant que l'Église l'ait fait. J'aurais probablement été un infidèle. Oui, monsieur, avec toutes ces pagailles. Mais venez donc, moi, et rattachez-vous à la montée. Et vous ne faites pas. N'allez-vous pas amener votre lettre dans notre église? Je crois qu'il y a une lettre. C'est lorsque Christ inscrit votre nom sur le livre de vie. C'est uniquement sur cela que cela se trouve. Quand j'ai vu toutes les dénominations, nous sommes des souches irlandaises qui étaient catholiques pour commencer. J'ai vu que c'était corrompu pour eux. Je suis allé à une certaine église dénominationnelle ici en ville. Ils m'ont dit, nous sommes le chemin, la vérité, la vie. Nous possédons tout. Je suis allé à une autre année à la Bagnola. Là, ces gens-là ne savent pas de quoi. Les catholiques ont dit, vous êtes tous dans les rêves. J'ai pensé, oh là là. J'ai joué avec un petit garçon de terrain. J'ai pensé, je suis allé le trouver. Je lui ai dit, où es-tu? Il répondit, je vais à cette église. Je suis allé, j'ai découvert qui disait que était le chemin. Je suis allé, le frère Dale et l'église baptiste, et la première église baptiste, ils ont dit, ceci est le chemin. Alors je suis allé à l'église irlandaise, ils ont dit, mais ceci est le chemin. Alors je me suis dit, je suis tellement troublé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je vais me mettre en règle. Je ne savais pas comment me repentir. J'ai écrit une lettre, j'ai pensé, je l'ai vu dans le bois, je lui ai écrit, je lui ai dit, cher monsieur, je sais que vous passez par ce chemin, parce que je me suis arrêté ici en chassant les quais, je sais que vous êtes ici, je te dis, j'ai pensé maintenant, attends une minute, je n'ai jamais vu quelqu'un auquel je vais leur parler, je vais parler avec eux, je vais lui parler, Je pensais bien, mais comment? Je ne sais pas comment y m'y prendre. Je suis allé dans la remise, je me suis agenouillé. Il y avait là de l'eau, c'était mouillé. Il y avait là une vieille voiture accidentée. J'ai dit, je crois que j'ai vu, je crois que je mettais leurs mains comme ceci, je me suis agenouillé. Et j'ai dit, maintenant, que vais-je dire? J'ai dit, on doit faire une certaine forme. Je sais qu'il y a. Façon, j'ai mis mes mains comme ceci. J'ai dit, cher monsieur, je souhaitais que vous veniez, que vous parliez avec moi juste un moment. Je vais vous dire combien je suis mauvais. J'ai tenu ma main comme ceci. J'ai dit, déjà, m'ont dit, Dieu m'a parlé. Je savais qu'il parlait, parce que je l'avais entendu me dire ça. Il m'a dit ne pas boire. Il m'a répondu, j'ai dit, peut-être que je suis censé mettre mes mains comme ceci. J'ai dit, cher monsieur, je ne sais pas exactement comment m'y prendre, mais j'espère que vous. Êtes-vous prêt à m'aider? Chaque prédicateur me dit de venir acheter à l'heure d'église, disant que Jésus, qui croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, les démons croient aussi la même chose. J'ai donc dit, je dois avoir quelque chose de moi. J'ai donc, je lis encore dans Pierre ou dans Jean, passé la porte, appelé la belle, et j'ai dit, je n'ai ni or ni argent, je savais que je ne savais pas cela. Je ne savais donc pas découvrir comment. Je ne savais pas comment je me suis. Il m'a dit, tu vois, tu as entendu. Quelqu'un est venu, m'a dit, tu as vu, tu as entendu trop longtemps. Tu as déjà 20 ans. Et cela m'en avait pas plus peine de ça. Et je vais parler, je me suis parlé. Moi, j'ai dit, mais je ne vois rien. J'ai honte de moi, monsieur Dieu. Je sais que vous allez m'entendre quelque part. Vous m'entendez, j'ai honte de moi, j'ai honte de vous avoir négligé. À peu près à ce moment-là, j'ai levé les yeux, un sentiment étrangement envahi. Une lumière est alors apparue et en se déplaçant dans la chambre, donc une voix que je n'avais jamais entendue ma vie parler. Je l'ai regardé, j'ai tremblé, je ne pouvais pas bouger, je me suis tenu là à regarder celui-ci et j'ai dit, monsieur, je ne comprends pas votre langage, si vous ne pouvez pas me parler les miens, si je ne sais pas, je suis censé me retrouver quelque part, mes péchés devaient y retrouver, si vous êtes prêt à me pardonner, revenez simplement parler dans mon langue. Et j'ai dit, laisse simplement cela arriver. Et le voilà de nouveau amusé. Et j'ai reçu un absolu. Amen. Oui, monsieur, j'ai senti comme si un poids de 40 tonnes quittait mes épaules. J'ai marché, si c'est pas joli, en bois sans même toucher la terre. Ma mère m'a dit, mais tu es agité. J'ai dit, non, maman, il y avait une voie de chemin de fer là. J'ai vu cette voie de chemin de fer en sautant. J'ai suivi cela. Je ne savais pas comment extérioriser mes sentiments. Oh, j'avais su que j'ai jubilé, mais à ma manière. Qu'est-ce que c'était? J'avais ancré mon âme dans un havre de repos. Ça réglait la question, c'était mon absolu. Là, j'avais découvert quelque chose, pas un mythique, pas une idée. J'avais parlé avec cet homme. J'avais parlé avec cet homme qui m'avait dit de ne jamais boire, ni fumer, ni souiller mon corps de d'une manière ou d'une façon avec les femmes. Et je l'avais contacté, lui, non pas l'église, je l'avais contacté, lui. Lui, monsieur. C'est comme cet homme qui parlait de Kouani il n'y a pas longtemps, frère Fang qui s'est trouvé là. C'est un peu l'air, un peu une plaisanterie. Ce n'est pas un endroit pour faire de plaisanterie ici, mais il a dit, le capitaine nous a fait sortir, nous a dit, ce pays entier et ça a mis les Japonais. Demain, les garçons nous allons faire. Rappelez-vous, mes garçons, il y a là beaucoup d'entre vous qui sont ici aujourd'hui, qui ne seront plus là demain. Ils ne seront plus ici. Il a dit maintenant que chacun de vous contacte sa région. Ce gars l'a dit. Mais moi, je n'avais pas de région. Il a dit, je me suis tenu là. Il a dit, un aumônier est arrivé. Ils sont partis dans cette direction. Et les juifs sont dans cette direction. Et c'est quand ils ne sont pas dans cette direction. Et moi, je suis resté là. Il a dit, le commandant m'a dit, bien, mon garçon, tu ferais mieux de contacter ta région. Il a dit, mais tu ferais mieux d'aller vous trouver parce que tu vas en avoir besoin sous peu. J'en suis sûr. Il a dit, et il a vu qu'est-ce qu'il s'est avancé. Il a dit, pourriez-vous me donner une? Il a dit, oui, viens avec nous. Il a dit, je suis allé à Bélin. Il a fait de moi un catholique. Là, Neil Barney, j'ai trouvé John, un groupe de ces. Cet homme l'a raconté ceci. Il a raconté. Le lendemain, il racontait comme ceci. Il a dit, c'était un grand gaillard. Il a dit, ils ont arrivé au corps à corps. Il s'est donné des coups et il criait, coupait. Et la ligne s'est mélangée, se sont retrouvés l'un derrière l'autre. Les Japonais les ont laissé tomber directement. directement là-dedans. Un combat corps à corps. Il a dit, je me suis arrêté et comme ça criait de partout, on ne pouvait plus s'entendre. Il a dit, tiens, du sang. Et il a regardé, oh, c'est le jeu du sang. J'ai regardé, c'est mon sang. J'ai regardé, il y a un tout à mon côté. C'est mon sang. Il a dit, j'ai un véritable, un ami catholique. J'ai dit, j'ai juste ceci maintenant. J'ai dit ceci en plaisantant. Mais le catholique a dit non, je vous salue Marie. Il a dit, non, mais c'est mon sang. Je ne voulais pas parler à une secrétaire. Je voulais parler à l'homme principal. C'était mon sang. Et je pense que c'est à peu près ainsi. Oui, monsieur, c'est comme ça. Nous devons avoir un poteau d'attache en absolu. Je n'avais pas de temps pour sa secrétaire. A-t-il dit, je voulais lui parler, lui. C'est cela. Quand un homme vient à Christ, vous ne voulez pas prendre la parole de quelques prêtres ou la parole de quelques secrétaires. Vous protestants, ne prenez pas ceci. Allez vers cette option jusqu'à ce que vous soyez entré là par la nouvelle essence, étant né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, et que vous puissiez voir la Bible étant manifestée dans l'humanité et l'amour à travers votre vie. Alors c'est votre absolu. Oui, monsieur. Je lis dans la Bible où il est dit qu'il est la parole. Quand l'église allemande a dit c'est ce chemin-ci, c'est l'église méthodiste, l'église protestante. Mais je lis dans la parole où il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront prévaloir contre elle. Écoutez maintenant, alors que je termine. Maintenant, les protestants ou les catholiques disent qu'il a bâti, tu es pierre sur cette pierre. Il a bâti ça sur pierre. Si c'était le cas, il aurait tout de suite rétrogradé. Il aurait bâti sur un homme. Qu'a-t-il fait? Les protestants disent qu'il a bâti sur lui-même. Non, il ne l'a pas fait. Qu'a-t-il fait? Dit-on que je suis. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Certains disent, mais tu es Élie, Moïse. Mais Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Observez les mots maintenant. Tu es Simon-Pierre, fils de Jonas. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Tu ne l'as pas, tu n'as pas jamais appris de quelque part ou d'une séminaire. Mais mon Père qui est dans le ciel te l'a révélé. Et sur cette roche, sur cette pierre, la révélation spirituelle de la parole, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. J'ai pensé, Seigneur, c'est cela. Je lis dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, il a dit, quiconque, ceci est la chose complète, quiconque qui injectera quelque chose, quiconque qui retranchera quelque chose, niera ceci, ou quiconque sera de la meilleure un petit peu, le polira pour, quiconque ajoutera ou retranchera sa part, cela sera retranché du livre de vie. J'ai dit, alors c'est ce dont j'ai besoin, Seigneur. Quoi ceci? Et dans ceci, cette croix-là, c'est le Christ est venu. C'est parfait jusqu'au bout, chaque parole qu'il a dit. Prenez les livres dans cette main, l'histoire dans cette main, cela se confirme. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, j'ai fait cela et j'ai reçu Christ, le Saint-Esprit, dans mon cœur, mon absolu. Cela n'a pas été. J'étais malade une fois quand j'ai perdu mon épouse, j'ai perdu mon bébé, perdu mon père, perdu mon frère, perdu ma soeur, ma belle-soeur. Et Billy s'est mouru, moi j'étais presque mort. J'ai remonté la route en pleurant, me rendant à la tombe et me rendant jusqu'à la tombe. Et j'étais en train de marcher. Il avait l'habitude de venir jouer ici. Il venait sur la route, il s'est arrêté là, il a dit, il m'a entouré, c'était la pénétration des 37. J'ai répondu oui. Tu vas où? Qu'allez-vous faire là-bas? Je vais marcher là-bas près de la tombe du bébé et la sienne. Une vieille colombe de sentiments. Quand il dit, je dis, oui, j'attends le brisement des feuilles quand elle joue cela. Cela joue de la musique pour moi. Il a dit, quelle sorte de musique est-ce que cela joue? J'ai dit, il y a un pays au-delà de la rivière qu'on appelle le Doux. Et nous n'atteignons ce rivage que par le décret de la foi. Un par un, nous atteignons le portail pour demain. Quand un jour, ils feront sonner les cloches dehors pour vous et moi. Il a dit, Billy, je vais vous demander quelque chose. Il a dit, que représente Christ pour vous maintenant? Que signifie Christ pour vous? J'ai dit, il est ma vie, mon tout, il est tout ce que j'ai, mon Isley, il est mon point de référence final. Il n'y a qu'à lui que je puisse accrocher. Pourquoi? C'est quelque chose qui est arrivé. Il a dit, je vous ai vu là debout ici au coin de la rue prêcher jusqu'à ce que vous sembliez prêt à tomber. Je vous ai vu toutes les deux heures de nuit parcourir les rues pour visiter. J'ai dit, même s'il me tire, je lui ferai confiance. Pourquoi? Mon ancre tient à l'intérieur du voile. J'avais un absolu. Je m'étais accroché à sa parole. Et sa parole, il est mon absolu. J'ai découvert que toutes ces choses peuvent faillir, mais Christ ne peut jamais faillir. L'Église catholique a le pape comme absolu. Les protestants ont leurs évêques, leurs credos, leurs citoyens généraux. Mais moi, comme Paul, vous avez votre crayon, qu'est-ce qu'il dit? Paul a dit dans Actes, chapitre 20, verset 24, aucune de ces choses ne m'ébranle. Oh, s'ils peuvent avoir leur credo, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais ces choses ne me branlent pas. J'ai ancré mon âme dans un havre de repos pour ne plus parcourir les mers déchaînées. Je ne sais pas où vous êtes, par ici. Les tempêtes peuvent balayer l'océan de monter, tout peut être sans déchets, sans déchets. Mais en Jésus-Christ, je suis en sécurité pour toujours. Oui, aucune de ces choses ne me branle, car je suis attaché à un homme. Et depuis que je l'ai rencontré, a dit Paul, sur ce chemin, j'ai été attaché. Il m'a fait faire demi-tour, il m'a redonné un bon départ. Vous vous rappelez, Paul appartenait jusqu'à une organisation la plus grande, mais il s'est attaché à l'absolu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il avait un but en vous sauvant. Il avait un but en me sauvant. Je suis déterminé par sa volonté à faire cela, sans y ajouter, sans y en retrancher. Apocalypse 22, 19, si vous voulez l'inscrire. Très bien, quiconque est en chair, je me prépare à quitter l'Église, si vous le savez. Je suis donc déterminé à rester avec cet Évangile. Rappelez-vous, voici la grâce. Il y avait des millions en train de mourir. Quand il m'a sauvé, qui ai-je pour qu'il me sauve? Il avait un dessein à me sauver. Et je suis déterminé à accomplir ses desseins. Et même pas, il se peut que ma fin soit maintenant pour bientôt. Mais quoi que cela soit, je reste ancré, je ne l'ai jamais demandé. Monsieur Isley m'a dit ce jour-là, Billy, dans toute, tu as gardé ta religion, l'a dit. J'ai dit, non, monsieur, c'est elle qui m'a gardé. Oui, mon ancre a tenu bon, c'est juste. Je ne l'ai pas gardé. C'est elle qui m'a gardé. Je ne peux pas y arriver par moi-même. Mais c'est elle qui m'a gardé, c'est cela. Il avait un but à me sauver. Il y en avait des millions qui se trouvaient dans le péché quand je suis venu à Christ, mais il m'a sauvé. Il avait un but à me enlever. La mort de Christ est un absolu par rapport à la crainte de Dieu. Christ, la mort de Christ a réglé la question. Quand cette abeille de la mort a piqué en Christ, vous savez, une abeille a un insecte qui a un aiguillon. Si jamais elle ancre cet aiguillon suffisamment profondément, quand elle veut le retirer, elle le perd. La mort a toujours eu un aiguillon. La mort a toujours eu un aiguillon. Un jour, quand montant au calvaire, le cahotement sur ses pierres, le sang produisant des claboussures sur les pierres, lorsqu'il a touché la terre au calvaire, là, le dos de cette croix écrasée, ainsi sur les empreintes. Alors qu'on lui donnait des coups de fouet, qu'on le maîtrisait, tandis qu'il gravissait le col. Mais il avait un absolu. Il connaissait sa position parce que la parole de Dieu avait dit par David, « Je ne laisserai pas mon sein voir la corruption, ni ne laisserai son âme au séjour des morts. » Il savait que la corruption s'installe aux 72 heures. Il a dit, « Détruisez ce temple, je le reverrai en trois jours. » Il avait un absolu. Le voilà qui gravit la colline couverte de crachats, mon cœur de soldat ivre. Et puis il avait frappé à la tête en disant, « Si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. » Le voilà en train de gravir la colline couverte de honte et de déshonneur pour être dépouillé de ses vêtements, méprisant l'ignominie, étant pendu sur la croix devant nous, mourant d'une manière honteuse, subissant la peine capitale infligée par le gouvernement romain, lui un homme qui n'avait fait. Une petite histoire raconte qu'une fois Marie-Madeleine est sortie en disant, « Qu'a-t-il fait ?» Elle a guéri des malades, ressuscité les morts, amené les délivrances et délivrance à ceux qui étaient captivés. En captivité. Qu'a-t-il fait? Un prêtre le fois passé la bouche, bien que cela, et que le sang jetait, il dit, qui préférez-vous écouter? Ou elle ou votre grand prêtre? Ils l'amenèrent, mais alors qu'il gravissait la colline. Et les diables avaient toujours douté de ce qu'il était. Il avait dit, si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pierres. Tu prétends pouvoir faire des miracles. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est même des mots vieux aujourd'hui, c'est vrai. Si tu pratiques la raisonnée, voici le vieux gentil qui est assis là au coin de la rue. Je sais qu'il est. Je sais qu'il est là. Jésus ne savait pas que c'est le même. Jésus qui s'est dit, regardez, il est parti à la piscine de Bethesda où se trouvaient des milliers. Il s'est approché d'un homme qui pouvait marcher. Il pouvait se placer. Il souffre peut-être. Quoi qu'il en soit, cela a duré quelques instants. Il a dit, quand j'entre dans la piscine, il a laissé tous les autres coucher là et il s'est approché de celui-là et il a guéri. Pourquoi? Il a dit qu'il savait qu'il s'était trouvé dans cet état-là. Il a dit à Jean 5, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire s'il ne voit ce que fait le Père. Voilà son absolu. C'est toujours absolu. Maintenant, là-bas, en Finlande, ces jours-là, ce petit garçon qui était tendu là, et j'ai marché tout autour de lui. J'ai commencé à me lever, quelqu'un posa ses mains sur moi. Je me suis retourné, j'ai dit, qu'est-ce que c'était? J'ai regardé à nouveau. Attends une minute, je regarde. Il était là. Il arrivera qu'un petit garçon d'environ 9 ans sera tué par une automobile. Il y aura une longue bande de conifères parsemée de rochers. La voiture sera à travers la route, démolie, portera des petites chaussettes montantes. Ses cheveux seront coupés. Les os de son corps seront brisés. J'ai regardé, j'ai pensé, oh Dieu! J'ai dit, restez tranquille, vous tous. La mère de la vie s'éteignait là. J'ai dit, ce garçon n'est pas sur ses pieds dans 2 prochaines minutes. Je suis un faux prophète, expulsez-moi lors de Finlande. Certainement, mais s'il est, vous devez vos vies à Christ. C'est juste, il restait tranquille. J'ai dit, Père Céleste, là-bas, de l'autre côté de la mer, il y a 2 ans, tu as dit que ce petit garçon serait couché. Il y avait frère, mon frère, Nancy, les autres qui étaient là-bas. Et partout, il avait écrit ça, des milliers de Bibles à travers les pays porter cette ambition, cette tentation. Il n'y avait aucune crainte à avoir en ce temps-là. Il y avait l'absolu, certainement qui ressusciterait. Là, en Finlande, où des milliers de personnes venaient à chaque fois, il fallait même le faire sortir et s'asseoir, le faire en dehors. Il s'éteignait là. Tous les gens m'aimaient. Ils avaient vu les guérisons se produire. Qu'était l'absolu? La vision. J'ai fait ce que le Père m'a dit de faire. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il le fera aussi. Voilà votre absolu. J'ai dit, mort, tu ne peux plus le retenir. Dieu a parlé, reviens, rends-le. Et le petit garçon, sister, il regardait autour de lui comme cela. Et le voilà écrit là et enseigné. La mère de la vie est pour. Qu'est-ce que c'était? Un absolu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Si ce n'est pas le même Dieu qui arrêta la femme venant de Naïm, qui arrêta ce qui est porté. Quand quelqu'un, il le mettait dans le tombe. Voilà ce même Jésus-Christ, le même aujourd'hui pour toujours. Regardez là-bas au Mexique, quand ce petit bébé, et ce bébé, le médecin avait signé une déclaration, c'était écrit dans les journaux. Ce bébé était mort ce matin, à 9h, c'était 10h du soir. Et cette petite femme ne voulait pas être consolée. C'était là, mon fils, essayant de le retenir. Elle avait des biens. Je savais qu'il y avait 200 huissiers qui se trouvaient là. Et le soir précédent, cet homme aveugle avait recouvré la vie. Mais finalement, elle a dit, vas-y, frère, prie mon prix pour elle parce que c'est bébé. Et il pleuvait à verse. Il s'était tenu là depuis cette matin. Elle a dit, on me descendait avec ses cordes par derrière pour me faire entrer. J'étais juste... Et je me suis... tenu là et j'ai dit comme Jésus. J'ai regardé, j'ai vu un bébé juste là. Un petit bébé mexicain qui n'avait pas de dents, qui était juste là. J'ai dit, attends un peu, frère, moi. Amène-la là ici. Oh, oh. Un absolu. Le huissier se reculait et la voici qui arrive. Elle est tombée, je ne la dis pas, j'ai dit, lève-vous. Le frère Spinoza lui a dit, lève-vous. Il lui a dit ceci. J'ai dit, Père Céleste, je suis ici devant cette pluie. C'était une jolie petite femme d'environ 23 ans. Quelque chose comme cela, ses cheveux pendaient. Son petit visage regardait. Elle avait vu cet homme totalement aveugle pendant environ 40 ans. Elle savait que si Dieu pouvait ouvrir les yeux avec, il pouvait guérir son. Elle s'est trouvée là. Elle était restait là-bas, là-dessus, tous les matins, ensuite, et c'était vers les 11h ou 10h du soir, quelque chose comme cela, tenant ses petits. Vous avez vu l'article dans le journal. J'ai vu Père Céleste, je ne sais pas ce que cela signifie. Je suis simplement son ton serviteur, mais j'ai vu ce bébé, cet tenant-là. Il était vivant, j'ai posé mes mains sur lui dans le nom du Seigneur Jésus. Et il a crié, ouais, il a commencé à pleurer. La mère a saisi le bébé, a commencé à crier. Et les gens ont commencé à crier par l'aide des femmes. J'ai dit, ne dis pas surtout rien. Envoyez un coursier avec ce bébé, avec cette mère. Allez chez le docteur, faites-lui signer une déclaration que ce bébé était mort. Et il est mort de pneumonie ce matin. Ce matin-là, et nous avons une déclaration signée par le docteur. Ce bébé fut déclaré mort le matin dans le cabinet du médecin. Ce matin, la mère l'a transporté avec elle pendant toute la journée. Qu'est-ce que c'était? Un absolu. Elle crut que si Dieu pouvait ouvrir les yeux d'un aveugle, Dieu pouvait ressusciter les morts. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je n'étais pas certain, je ne savais pas tant que je ne l'avais pas vu. Et quand j'ai vu le bébé, c'était un absolu, absolument juste. Ça y était. La mort devait rendre sa victime. Là se trouvait le Fils de Dieu. Cette abeille de la mort a commencé à bourdonner autour. Ah, comment pourrait-il être prophète? Comment pourrait-il se tenir là et se laisser lui cracher au visage? Comment peut-il se tenir et laisser se moquer de lui et ne rien faire à ce sujet? N'est-ce pas, Emmanuel? C'est simplement un homme ordinaire. Regardez cette bave venant de ces soldats. Le diable a dit, oh, je l'aurai. Le voici qui vient comme une abeille, le guillon de la mort bourdonne autour de lui. Mes frères, lorsque cette abeille a ancré son aiguillon dans cet Emmanuel, lorsqu'elle a voulu la retirer, elle a perdu jusqu'à la mort elle-même. Ce n'est pas étonnant que Paul plus tard puisse dire, oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. La mort de Christ était l'absolu pour tout ce qu'il a craint. Mon cœur dit Amen à chaque parole dans son cœur. Je termine maintenant. Je dois rebrouiller. C'est pourquoi je sais que le Saint-Esprit est ma boussole qui me guide. Il est celui qui me fait savoir que cette parole est vraie. Il est mon absolu. Il est mon rayon de soleil. Il est ma vie. Il est mon encre. Quand les difficultés sont là, il est mon étoile polaire. Quand je suis perdu, le Saint-Esprit est ma boussole qui me ramène au bout. Les dénominations sont comme les autres étoiles et se déplacent avec la terre. Les autres étoiles se déplacent en même temps que la terre, mais l'étoile polaire, la terre peut se déplacer, elle peut, mais l'étoile polaire. Oh frère, l'étoile polaire est ancrée. L'étoile polaire est ancrée. Les autres se déplacent. Vous pouvez les voir ici et là, partout ailleurs. C'est ainsi que les églises dénominationnelles. Mais Christ est absolu. Il est celui dans lequel vous avez votre confiance. Quand les dénominations vous ont tout embrouillé, regardez simplement vers l'étoile polaire. Le Saint-Esprit est votre absolu. Il reste toujours fidèle à sa parole. Quand on m'a dit que ces choses ne pouvaient pas arriver, s'il n'y a point de Dieu, alors vite, mort. Alors vie, mange, bois et réjouis-toi. S'il y a un Dieu, servons-le. J'ai vécu pour voir le jour où il a tout accompli, alors jusqu'à ressusciter les morts, comme lorsqu'il était ici sur terre. Et nous savons que c'est la base de la déclaration formelle, qu'il est l'absolu. Il est mon absolu. Maintenant, faites-lui votre absolu. Considérez même mon moment de difficulté. Il est toujours un absolu. Maintenant, observez. Par la grâce de Dieu. Maintenant, je ferais mieux de terminer si c'est fait tard. Eh bien, regardez un peu, je pensais que c'était 11 heures. C'est un jour entier, une nuit, un jour entier, une année entière, toute l'écriture ne suffirait pas pour en parler. N'essayez pas de vous le figurer. Vous ne pouvez pas, il n'y a point de le figurer. Vous me direz, Frère Branham, je sais, je ne sais pas, je crois simplement, j'essaie de faire quoi que ce soit. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni celui qui veut, ni celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voyez, ce n'est pas par les œuvres, c'est par grâce. Voyez-vous, je le crois simplement, c'est son affaire de s'occuper du reste. Vous croyez simplement, agissez d'après cela. Ces chants formés, je les ai entendus les jours de chanter ou dire l'amour de Dieu comme tu es riche et pur. Comme tu es insondable, Il demeure à jamais, c'est le chant des saints et des anges. Si un mathématicien essaie d'analyser cela ou essaie de montrer cela par son instruction, il deviendra fou. Vous ne pouvez pas le faire, n'essayez pas de le faire. N'essayez pas de chercher à comprendre cela. Dieu dépasse tout ça. On ne se figure pas Dieu, on croit simplement en lui. C'est le secret. Ne cherchez pas à le comprendre, croyez-le simplement. Je ne peux pas vous dire ce que cela signifie. Je sais simplement que je crois cela. C'est tout. C'est comme lorsque vous promettez quelque chose à un petit enfant, il le croit. Vous devez tenir parole. Vous êtes un enfant de Dieu, il tient la parole. Croyez-le simplement. Si Dieu l'a fait une fois, il doit le faire de nouveau. S'il ne le fait pas, il vous dira pourquoi il ne peut pas le faire. C'est juste. Maintenant, restez bien avec cela. Je crois que notre précieux frère qui est là, qui a été baptisé hier soir dans... chante ce cantique, amour de Dieu. Je me suis laissé dire que ce verset, cette partie du chant a été retrouvée et plongée au mur d'un asile. Cet endroit qui dit, si nous remplissons l'océan d'encre, si le ciel était fait de parchemin et que tout brin de paille sur terre soit une plume et tout homme inscrit de son état, écrit l'amour de Dieu, sécherait l'océan. Le rouleau, bien que déroulé, ne pourrait pas tout contenir. Pensez-y, quand environ les trois quarts de la Terre sont de l'eau, regardez l'hydrogène, l'oxygène qu'il y a dans l'air, l'humidité et le reste, voyez-vous? C'est tout l'encre. Pensez aux milliards de millions de milliards de billions de épaves qui seraient là. Et pensez aux milliards d'hommes qui ont été sur la Terre, que chacun d'entre eux soit scribe de son état. Trempez ses plumes dans l'océan. Essayez de comprendre l'amour de Dieu à sécherer l'océan. Ouh, le rouleau, bien que déroulé d'un bout à l'autre de l'éternité, ne pourrait pas tout contenir. N'essayez pas de vous l'imaginer. Vous ne pouvez pas. Vous perdez l'esprit en cherchant à comprendre quoi. Faites-le de lui votre absolu. Faites de lui votre. Restez là, une douce paix, espérant que vous n'oublierez jamais. Entre vous, c'est là. Inclinons la tête. Comme tu es grand, que tu es grand. Combien ici ce matin, avec vos têtes inclinées, on s'approche maintenant de l'an nouveau. Et vous avez été très religieux, c'est bien. Je l'apprécie chacun de vous, je suis sûr que Dieu l'apprécie. Mais vous n'avez pas vraiment fait cette expérience de l'absolu. C'est quelque chose que vous n'avez pas simplement fait semblant de croire ou imaginer, mais quelque chose qui vous a répondu. Alors vous avez vu votre vie changer depuis ce moment-là. Chaque parole de Dieu, chaque promesse est ponctuée par un amen. Alors vous vous tenez à l'absolu. Parce que vous vous rappelez qu'il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira pas. Si vous n'êtes pas encore ancré au point où vous pouvez dire amen à chaque parole, même quand celle-ci s'oppose à votre credo ou à votre dénomination, et que vous vouliez faire comme Moïse et les autres, qui ne pouvaient pas faire cela avant d'avoir obtenu cet absolu. Si vous voulez cela dans votre vie ce matin, voudriez-vous le faire savoir, levant vos mains vers Dieu. Que Dieu vous bénisse très bien, partout dans le bâtiment. Bienveillant Père, je sais qu'un jour, nous devons nous séparer. Il doit y avoir un temps où nous allons quitter ce monde. Nous ne savons pas quand ce temps viendra, et cela ne changera pas grand-chose. Si notre temps est terminé, alors nous voulons venir. Notre objectif en restant ici, c'est de te servir. Et depuis que nous nous sommes trouvés un jour sur le chemin qui conduit à la lumière, la suivi, pour aller faire des ravages dans l'église et qui fut aveuglé par une lumière, oh Dieu, cette lumière l'a suivi, car c'était Christ. Et il s'est ancré là à un absolu, si bien qu'ensuite il pouvait même rire en face de la mort. et dire grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Tu es devenu un absolu total pour cet apôtre. Tu étais pour lui l'amen à chaque phrase. Tu étais l'étoile de sa vie, le poteau indicateur. Tu étais la boussole qui le guidait à travers la tempête. Tu étais la révélation, tu étais la vision. Tu étais ses espoirs, son salut. Et même à l'heure de la mort, quand il savait qu'il allait passer par là, tu étais toujours à son absolu. Tu étais l'absolu des derniers. Tu étais l'absolu de tous les prophètes. Au milieu des différentes nations et des difficultés de leur temps et des pharisiens, des sadducéens, il y avait néanmoins des hommes qui t'ont pris comme absolu. Et aujourd'hui, Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ont de la compassion, de l'amour et de cœur qui saignent, Seigneur, dans l'attente d'une véritable expérience, les amenant à connaître Dieu et avoir l'assurance d'un absolu. Peut-être, Seigneur, que tout ce que les gens ont connu jusqu'à maintenant, c'était de devenir membre de l'Église. Et nous réalisons, comme j'ai essayé de leur dire sincèrement, pas pour être différent, tu connais mon cœur, que l'on ne peut pas se joindre à l'Église. On peut devenir membre d'une loge, de la loge méthodiste, baptiste, catholique et pentecôtiste, mais vous naissez dans l'Église, le corps mystique de Christ, et vous devenez membre de son corps, avec les dons de l'Esprit pour faire que son grand corps passe à l'action avec puissance. Oh Dieu, c'est ce que ces mains signifient ce matin, quand elles se sont levées. Place-moi, Seigneur, prends-moi, façonne-moi, devant-moi. Fais que ma position dans la vie soit un tel absolu, que je ne penserai à rien d'autre qu'à cet absolu. Accorde-le, Seigneur. Bénis-les, guéris les malades et les affligés. Sauve-les perdus. Maintenant, Seigneur, nous savons que c'est inhabituel d'appeler les gens à l'autel, mais c'est devenu une tradition pour nous. Et ce matin, avec l'autel rempli, les petits-enfants et tout, mais Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tu leur as parlé. Ils ont levé la main. Ils ont pris en quelque sorte une décision. Ils veulent quelque chose de réel. Et j'offre ma prière en leur faveur. Accorde-le à chacun, Seigneur. Sois avec nous maintenant, pardonnant notre péché, guérissant nos maladies et nous donnant la délivrance dont nous avons besoin. Et Seigneur, par-dessus tout, puissions-nous ne jamais oublier aujourd'hui que nous sommes attachés à l'absolu. Notre étoile polaire, au calvaire, à Christ. Et le Saint-Esprit prend les paroles de Dieu et les manifeste littéralement pour nous. En guérissant les malades, en nous donnant des visions, en ressuscitant les morts et en faisant exactement ce qu'il a promis de faire. Et puis cette Église et ces gens faisant partie de la portion du corps de Christ qui est assemblée ici ce matin, puissent-ils vivre comme Jésus l'a dit, vous êtes le sel de la terre. Et puissent-ils devenir si salés que les gens de leur communauté seront assoiffés, les seuls engendrent assoiffés, les seuls conservent aucune. Autant, et je te dis, je te prie, oh Dieu, d'accorder ceci aux gens afin qu'ils puissent être aussi gagnés d'âme. Bénis notre pasteur, frère Neville, cet humble serviteur, se tenant bien respectueusement à son poste en tant que membre du corps de Christ, essayant de son mieux de suivre tout ce que tu lui dis de faire. Bénis les administrateurs, ces hommes qui se sont tenus à mes côtés avec tellement de bienveillance dans ces temps sombres dans n'importe mais important que j'ai traversé. Reste avec l'Église qui a prié. Je prie, Seigneur, que je les aime. J'offre ma prière afin qu'ils puissent regarder vers toi, Seigneur. Puisses-tu détourner les regards de l'âge formant de ces serviteurs, monte, puisqu'ils regardent vers toi, qui est l'omnipotent, qui est. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes limités. Peu importe qui nous sommes toujours des mortels. Mais il ne s'agit pas du messager, mais du message. Accorde le Seigneur, ce sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous voulons tirer. Accorde qu'il soit si réel pour chacun et qu'il devienne l'absolu de la congrégation entière. Nous le demandons. au nom de Jésus. Amen. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, tandis que nous le chantons de nouveau, serrez la main avec quelqu'un devant vous, derrière vous, à côté de vous, serrez-vous tous les mains. Maintenant, restez simplement assis, mais retournez, je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Il vient d'annoncer la communion pour lundi soir à minuit. Levons-nous maintenant nos mains et chantons pour lui. Combien sent-il et qu'il est votre absolu? La parole, il est la parole. Le croyez-vous? Il est la parole. Et le Saint-Esprit a fécondé cette parole pour faire que cette lumière de la parole vive en vous. La confirmation de la parole. Placez la parole dans votre cœur. Laissez le Saint-Esprit entrer et observez la parole agir. Croyez, soyez humble. Ne désirez pas être quelqu'un de grand. Soyez un rien de tout, rien du tout que Dieu puisse faire de vous quelqu'un. Que tous ceux qui l'aiment disent Amen. Vous savez ce que signifie le mot Amen? Ainsi soit-il, Amen. C'est juste. Disons Alléluia. Vous savez ce que cela signifie? Louer notre Dieu. Quand j'étais en Allemagne, il n'y a pas longtemps, je me suis tenu devant 30 ou 40 000 personnes ce jour-là. J'ai dit, c'est étrange que vous, les Allemands, vous ne puissiez pas comprendre. J'ai dit, comme j'étais en route pour venir ici, aujourd'hui, un chien aboyait après moi en anglais. C'est juste. J'ai dit, ça ne lui a pas fait du tout. Et là, se trouvait un oiseau. Il a chanté pour moi en anglais. J'ai suivi Larry en arrivant ici. Il y avait un enfant qui tenait un bébé. J'ai dit, mais ce bébé pleurait en anglais. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc avec vous? C'est juste. Et si vous regardez simplement autour de vous, il est partout. Maintenant, levons simplement nos mains, fermons les yeux, chantons, tandis que nous demandons. Levons-nous premièrement chacun de debout sur ses pieds. Les mains, vous dites Amen. Vous savez ce que le mot Alléluia est le même dans toutes les langues, le mot Alléluia. Allez dans les jungles de tantôt en Afrique, Alléluia est le même mot. Alléluia. Cela devrait être presque une manière chrétienne de saluer, ne pensez-vous pas? Alléluia, le mot signifie louer notre Dieu. Il est digne. Il est absolument mon sauveur. Il est absolument pour moi Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est absolument pour moi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-il pour vous? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire.